Donc, on va commencer Bezrat Hashem. On va commencer Bezrat Hashem, notre deuxième cours, sur le chapitre 15. Allez, messieurs, on y va. Un petit peu de sérieux. Alors, dans le chapitre 15, donc, on a bien sûr, on continue toujours à parler du Benoni, puisque le Benoni, c'est la star du Tanya. Et on a expliqué, ça c'était le thème, c'était un thème majeur. Hein. On peut dire vraiment qu'à partir du chapitre 15, il y a vraiment une rupture par rapport à ce qu'on a vu avant. C'est que, jusqu'à maintenant, on imaginait que finalement le Benoni, le top, quoi, d'accord, le top modèle du Benoni, c'est celui que son Yatsahara, bon, finalement, avec le temps, il n'en met plus tellement. Et on a expliqué, on a dressé le portrait la semaine dernière, on a dit que finalement, il y a deux catégories de Benoni. Il y a un Benoni qui, avec le temps, bah, son Yatsahara le dérange très très peu. Alors, c'est pas un tzadik, parce que bon, son Yatsahara l'embête de temps en temps, mais bon, son Yatsahara l'embête très très peu, d'accord, il l'embête presque plus. Alors, on avait donné plusieurs raisons. On avait dit soit parce que c'est quelqu'un qui, par définition, par nature, il n'est pas attiré par les plaisirs de ce monde, ou bien c'est quelqu'un qui, par nature, il est assidu, donc ça veut dire que ça lui fait pas peur de rester assis 10 heures sur place à étudier. Alors que de l'autre côté, on avait donné d'autres raisons aussi, alors que de l'autre côté, on a une autre personne, oui, pardon, troisième point, c'est que c'est une personne que pour lui, pour se retenir de faire une avéra, il lui suffit juste de se rappeler que c'est assour. Et il a une émouna, ça y est, c'est fini, il se retient. Alors que de l'autre côté, tu as le Benoni, qui a un Yitzhahara très très fort, qui est attiré par les femmes, comme on avait dit la semaine dernière. D'accord? Donc il a un tempérament beaucoup, beaucoup plus chaud.
Je ne parle pas de toi. Je fais shalom, non.
Et que son Yitzhahara, dès qu'il s'assoit pour aller étudier la Torah, son Yitzhahara lui dit, viens, j'ai des trucs plus intéressants à te proposer. Et que c'est une personne que quand il a, son Yitzhahara, il lui propose une avéra, quand il répond à son Yitzhahara, c'est assour. Son Yitzhahara lui répond, et alors? D'accord? Donc ça veut dire que c'est une personne qui a un Yitzhahara qui est beaucoup plus compliqué. Et que finalement, cette personne-là, c'est un combat constant qu'il a avec son état. Alors, on avait expliqué la semaine dernière, on avait dit qu'avec ça, on va comprendre ce que le roi Salomon a dit. Vous apprendrez à faire la différence entre, qu'est-ce qu'on avait dit? Entre le tzadik et le rachat, entre celui qui sert Dieu, esclave de Dieu, et celui qui ne le sert pas. Et qu'est-ce qu'on a expliqué la semaine dernière, pour résumer, enfin? On a expliqué que tu peux avoir un tzadik qui ne sert pas Dieu. Parce que servir, ça veut dire quoi? Dans servir, il y a le mot serviteur. C'est quoi un serviteur? Un serviteur, c'est quelqu'un qui fait quelque chose contre son gré. Parce que si c'est un kiff, c'est plus un serviteur. Un serviteur, c'est qu'il est esclave. Ça veut dire qu'il fait quelque chose, il n'a pas envie de le faire, mais il est esclave, il n'a pas le choix. Or, on peut avoir un tzaddik, d'accord, qui ne sert pas Dieu. Pas dans le sens qu'il fait les mitzvot. Il fait toutes les mitzvot. Mais tellement il kiffe, qu'on peut plus dire qu'il a un combat avec son yitzhara, et que c'est un service, que c'est une servitude. C'est pas une servitude. Peut-être que, il va suer pour le faire, c'est difficile, d'accord? Mais c'est un plaisir. Donc du coup, ce tzadik, on peut pas dire qu'il sert à Kadosh Baruch Hu. Alors que d'un autre côté, un simple Benoni, une simple personne comme nous, qui va peut-être faire beaucoup d'avérot, mais d'un autre côté, quand il va faire une mitzvah, on pourra réellement parler du fait qu'il est en train de servir à Kadosh Baruch Hu. En d'autres termes, pour dire les choses plus clairement, d'accord? Ça veut dire qu'on n'est pas ici pour faire la performance. Il y a les tzadikim qui font des meilleures performances que nous, et les anges qui font des performances encore meilleures que nous.
Pourquoi tu parles des anges?
Parce que les anges aussi étudient la Torah.
Mais quel rapport? On n'est pas dans la même catégorie.
Évidemment. Donc c'est pour ça que je précise. Je dis, on n'a pas été créé pour faire la performance.
Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs.
On a été créé pour servir Dieu, et que d'une certaine manière, le tzadik ou bien le Benoni, comme on l'appelait maintenant, le Benoni. Enfin, Baba Cool, hein, comme on l'a dit, c'est le Benoni qui est sur le Sahara, ne dérange plus.
Il
n'aura pas cette qualité d'être celui qui sert Dieu. Alors que moi, d'accord, quand je me bats contre mon Sahara, eh ben, je sers Dieu. Parce que dans servir, il y a le mot Ovet qui veut dire Evet, qui veut dire esclave.
Et pourtant, dans une paracha, quand Moshe Rabbeinu devait mourir, il a été nommé comme Eved Hashem. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas de mérite alors là.
Au contraire.
Non, c'est ce que vous dites là.
Non.
Vous dites, il faisait Eved Hashem, ça veut dire quelqu'un qui fait ça normalement, avec aucun effort.
J'ai pas dit rien. Ça, non. J'ai dit que chacun a ses qualités. Des gens comme les tzadikim, ils ont d'autres qualités. C'est qu'ils font beaucoup plus de chiffres. Mais nous, notre qualité, c'est pas dans les chiffres. Notre qualité, c'est dans la manière comment tu fais une mitzvah et la manière comment tu t'es battu avec le tzara. C'est pas pour le chiffre.
Pas en quantitatif.
Donc ça veut dire qu'on sait qu'on
a vous voyez ce que je veux dire?
Ouais, mais ça veut dire même dans le Benoni, il y a plusieurs catégories.
Évidemment, c'est ça ce qu'on est en train de dire. Mais le but n'est pas le chiffre. C'est-à-dire le but n'est pas d'arriver à un résultat, de dire je suis arrivé à un point B. Il faut arriver au point B. Mais comme on avait dit la semaine dernière, on a dit, on n'analysera pas le fait que celui qui est arrivé le plus vite au point B. On analysera la route que tu as fait pour arriver au point B. Comment tu as joué? Rappelez, on avait donné l'exemple du match de foot.
Oui, oui.
D'accord. Combien de temps dure un match de foot?
90 minutes.
Et alors, est-ce qu'on joue pour arriver à la fin des 90 minutes? C'est ça le but du jeu?
On joue pour gagner.
On joue pour gagner. Et on joue pour bien jouer.
Ah bah, alors, si
je... Et un beau jeu, c'est pas seulement qui ont gagné, un beau jeu, c'est un beau jeu.
Si je brûle les étapes, pourquoi ça serait pas bien?
On brûle pas les étapes. Parce que le but n'est pas seulement d'arriver à la destination. Le but, c'est de jouer.
Comment arriver?
Vous savez, aujourd'hui, les jeunes.
Quand ils jouent... On a dit le but, c'est de gagner. C'est
alors, je vais vous donner un exemple. Vous savez, les jeunes, aujourd'hui, dans les jeux, il y a des jeux, ils jouent dans des consoles. Et ils ont des codes. Si vous avez des enfants dans la famille, vous devez savoir ça. Ils ont des codes. Et avec un code, ils peuvent sauter des mondes.
Ah ouais. On l'avait depuis
longtemps. D'accord. C'est, comment ils appellent ça? Des cheats, ou je sais pas comment ils appellent ça. Donc, c'est des codes. C'est-à-dire, tu tapes un code, et normalement, pour arriver au monde numéro 10, bah, il faut faire les 10 mondes. Ils ont des codes, tac, ils peuvent aller directement au 10e monde. D'accord? Mais les jeunes, entre eux, quand ils se parlent, ils disent, c'est pas du jeu. Tu dis, mais pourtant, c'est quoi le but du jeu? C'est d'arriver à la fin du 30e monde. Alors, si je te donne un code qui t'amène au 30e monde, qu'est-ce que t'en as à faire? C'est ton but, non? C'est ce que tu cherches. Bien sûr que mon but, c'est d'arriver au 30e monde.
Ça n'a pas d'intérêt.
Mais mon but, c'est de jouer pour arriver au 30e monde. Ouais. Pas de dire, je suis arrivé au 30e monde. Comprenez? Oui, après, il y en a qui vont. Enfin, bon, c'est les jeunes, ça. D'accord? C'est le truc des jeunes. Non, ça a changé. Non, aujourd'hui, on a changé la date, ça ne marche plus aujourd'hui. Voilà. Mais.
Se faire vite.
Exactement.
Et ce qui s'acquiert lentement,
on ne peut pas l'apprécier. Si ça s'acquiert vite, je ne peux pas l'apprécier. Pourquoi il a acheté un jeu? Il a acheté un jeu pour se casser la tête? Non, parce que tu dis, tu vas arriver à la 30e étape. Moi, je t'amène à la 30e étape. Je dis, non, je n'ai pas besoin de toi. Je veux arriver, moi, à la 30e étape. Donc, c'est la même chose. Ça veut dire que le Benoni, comme nous, c'est-à-dire des gens qui bossent tous les jours et qui se battent avec le Yitzhara, a une qualité que le Tzadik n'aura pas. Qui est qu'on se bat avec le Yitzhara. Et ça, c'est une qualité qu'un Tzadik ne sait pas ce que c'est se battre avec le Yitzhara. Ça veut dire que même si des fois il va devoir avoir des challenges, mais c'est pas un challenge dans lequel il a un manque d'envie. C'est un challenge dans lequel il a envie de le faire parce qu'il voit les résultats. Or, comme moi je vois pas les résultats, j'ai pas toujours la même envie que lui. Donc ça n'a rien à voir. Lui il voit les résultats donc il a envie de travailler. Moi je vois pas les résultats donc c'est plus difficile.
Okay. Est-ce qu'on peut dire qu'un tzaddik nous envie parce qu'on a ce combat permanent?
Clairement oui.
Ouais.
Ah oui clairement.
Jusqu'à l'employé.
Très clairement. Ouais.
J'aurais pas.
Une fois il y a un maître qui s'appelait le Rabbi de Saint-Martzedek. Il y a un chassid qui est venu le voir et qui lui a dit, Rabbi, j'ai beaucoup de mal à étudier. Ça veut dire qu'il a dit, voilà, chaque fois, avant que je m'asseye, c'est un monde. Une fois que je suis assis, il y a ma femme qui démentine, etc. Et j'arrive, et après le texte est compliqué, je me casse la tête. Bon, du coup, il a que des galères, quoi. Déjà, il faut qu'il s'asseye. En plus, une fois qu'il est assis, il comprend rien. Et le Rabbi de Saint-Martzedek, il a répondu, il a dit, tu sais, je t'envie. Il a dit, parce que moi, depuis que je suis petit, je sais pas ce que ça veut dire me casser la tête pour étudier la Torah. Je sais pas ce que c'est. Parce qu'il avait une telle chorma que quand il lisait, il comprenait. Il lit deux fois, il comprend encore mieux. Il ne sait pas ce que c'est de casser la tête.
De quoi?
Il dit, je t'envie parce que toi, tu as le srout, le mérite, de faire la mitzvah de ce qu'on appelle amal batora. Le labeur de la Torah. Il dit, moi, je ne sais pas ce que c'est. Parce que moi, ça marche.
C'est une mitzvah, ça? De faire le labeur de la Torah.
Une mitzvah, il est guia batora.
Il y a toujours un niveau où il se prend la tête.
Non, mais ce n'est pas une prise de tête quand tu sais que ça marche.
Oh, bonsoir.
Si je te dis que tu vas aller ramasser les pièces d'or par terre. Et je lui dis, il faut marcher 15 km et que chaque pas que tu marches, il y a une pièce d'or. Tu vas te fatiguer?
Non.
Tu vas pas aller sentir les 15 km. Tu lui dis, vas-y, donne-moi encore 30. T'es coureur, non?
Alors. Je cours.
Mais parce que, donc c'est, pourquoi? Parce que tu vois le résultat. Donc quand tu vois pas le résultat, là, ça devient compliqué. Ok. Maintenant qu'on a expliqué ça, maintenant on va pousser encore beaucoup plus loin. Ce qu'on a expliqué la semaine dernière, on va le pousser encore beaucoup plus loin.
Pardon.
Ça veut dire que finalement, qu'est-ce qu'on a expliqué? Que le but principal d'un homme, en tout cas le but principal des gens comme nous, c'est de se travailler et de casser sa nature. Et de faire quelque chose qui est contre ma nature, que j'ai pas envie de faire et je le fais quand même. Ça veut dire qu'on te dit, s'il y a de la résistance, c'est un bon signe. Si tu sens quand tu veux faire une mitzvah que tac, t'as de la résistance, c'est que ça attrape, d'accord? C'est que ça s'agrippe, ça veut dire que c'est un bon signe.
Ça sent en permanence.
D'accord? Évidemment. Mais le tzadik ne sait pas ce que c'est ça. Ok. Maintenant, on va amener différentes guémarotes pour essayer de trouver une formule, d'accord, de trouver une formule pour expliquer concrètement comment ça marche en moi, parce que c'est trop facile à dire ça. Alors ça veut dire quoi? Il faut qu'un juif doit toujours vivre dans la difficulté. Il faut qu'il y ait une norme, il faut qu'il y ait une formule. Vous allez comprendre ce que je veux dire tout de suite. Alors on est au Bazé Yuvan, on est à la page
208.
Page 209, au milieu de la page au Bazé Yuvan.
Moi c'est page 40.
Voilà. Pour ceux qui ont le Tania, d'accord.
Là.
Pour ceux qui ont le Tania. Pour ceux qui veulent se bosser et se battre contre le texte, alors c'est la page Raphaël. Au Bazé Yuvan. Au Bazé Yuvan, avec ça on va comprendre. Mashamru Bigmara, ce qui est écrit dans la Gemara. La Gemara dans le traité Chagiga pose la question suivante. Elle dit, quelle est la différence? Le roi Salomon, il dit, vous ferez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Alors nous, on a expliqué que celui qui sert Dieu, c'est quoi? Sert ses serviteurs, c'est-à-dire celui qui se bat contre son Yetzara. Bon, ça c'est notre définition. Maintenant, la Gemara, quand elle pose la même question, elle répond, elle dit, c'est quoi celui qui sert Dieu? C'est celui qui révise son étude 101 fois. Ça, c'est ce que dit la Gemara. Quoi? Ça veut dire, si je la révise 50 fois, je ne sers pas Dieu? Et si je la révise 115 fois, qu'est-ce qu'il y a dans 101 fois? Pourquoi 101 fois? Qu'est-ce qu'il y a dans 101? C'est un chiffre qui porte bonheur? Alors il dit, Velo Avado, et dit la Gemara là-bas, encore plus fort. Elle dit, c'est qui celui qui ne sert pas Dieu? Parce que le roi Salomon a dit, vous ferez la différence entre le tzadik et le racha, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et qu'est-ce que dit la Gemara? Celui qui sert Dieu, c'est celui qui révise son étude 101 fois. Celui qui ne sert pas Dieu, c'est celui qui révise son étude 100 fois. Moi, quand j'entends ça, je dis, et nous? Vous savez, déjà, réviser son étude une fois, c'est compliqué. Même une fois. Pourquoi? Parce que l'homme, il a toujours envie d'étudier quelque chose de nouveau. Et quand il connaît déjà la chose, je lui dis, vas-y, viens, révise. Et vous savez, je connais déjà. C'est difficile pour lui de prendre le texte et de le relire pour essayer de découvrir de nouvelles choses. Et là, c'est pas une fois qu'on révise. C'est 100 fois. 101. Non. 101 fois, il sert Dieu. 100 fois, tu dis, il sert pas Dieu. C'est quoi ces histoires? Comment ça marche? Comment on peut comprendre ça que 100 fois une personne qui révise son étude 100 fois, tu l'appelles pas qu'il sert Dieu? Mais elle veut qu'on arrive à ce niveau-là. C'est déjà extraordinaire. Qu'est-ce qu'il répond? En plus, surtout, ça veut dire, ce que j'ai pas obtenu en 100 fois, je vais l'obtenir en une fois. C'est pas logique. C'est pas cohérent. Si 100 fois j'ai révisé, j'ai pas obtenu, pourquoi la fois supplémentaire que je vais rajouter, on dit cette fois-là, ah, là tu as servi Dieu. Qu'est-ce qu'elle a rajouté cette fois-là?
Parce que là, t'es sûr d'avoir
alors,
compris.
Alors, non, il explique, regardez. C'est très simple, la formule est très simple. Et là, vous pourrez appliquer la formule qu'il va nous donner ici à n'importe quel élément de votre vie. La réponse est très simple. Vous savez qu'à l'époque de la Gemara, il n'y avait pas la Torah, enfin, la Torah orale n'était pas écrite. Il y avait la Torah écrite, c'était le Chumash, et tout le reste était à l'oral. Donc, pour qu'elle reste à l'oral et pour qu'on retienne, il fallait réviser.
Répéter
jusqu'à que ça rentre. D'accord? Alors, il dit, Aïnu Mishum, Shebimehem, à leur époque, à l'époque des maîtres de la Mishnah et de la Gemara, Aya Regilut Lishnot Kol Perek Meapamim. L'habitude était de réviser chaque chapitre 100 fois. C'était la norme. C'est-à-dire qu'un élève venait à l'école, il savait qu'il devait réviser son étude 100 fois. C'est la norme. 100 fois, on savait qu'on devait réviser 100 fois. Tu imagines quand tu as révisé quelque chose 100 fois, on peut me poser la question 20 ans plus tard, il n'a pas bougé de ma tête.
Mais ça veut dire
qu'il y a 3 jours. Voilà, 100 fois. Pas seulement réviser bêtement, réviser le texte 100 fois, le repasser 100 fois. Ça veut dire que quand tu révises un texte 100 fois, tu le maîtrises sur le bout des doigts, tu le maîtrises parfaitement. Maintenant, il dit, d'ailleurs la Gemara amène un exemple, elle dit, Kedeita et Amigmara, comme la Gemara dit là-bas, elle dit, Mashal Mishuk Shel Chamarim, elle amène un exemple d'un marché, Shel Chamarim. Alors Chamarim, c'est les âniers, ça veut dire, à l'époque, il y avait un métier qui s'appelait ânier, c'est comme le taxi d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'on allait, d'accord. Il y avait ça existe encore les ânes? Oui. Mais ça veut dire qu'on venait dans une station, comme une station de taxi, et on venait prendre un âne. Maintenant, quand tu venais là-bas, on te posait la question. On te disait où tu veux aller. Parce que par rapport à ça, les âniers, ils préparaient leur course. Parce que, par exemple, lui, s'il doit revenir, etc., il veut savoir combien de temps il lui reste. Donc, chaque ânier, par rapport à ce qu'il connaissait son animal, et par rapport à la course qu'on lui venait de faire, le nombre de kilomètres, le nombre de parsa. Parsa, c'était le nombre de... C'était la norme de l'époque, comme le kilomètre, d'accord? Alors on disait comme ça. Qu'est-ce que dit la Gemara? Bonsoir. Gemara a dit que dans le marché des âniers, on avait l'habitude, chez Niskarim, les Esser Parsa Bezouza. Et la Gemara donne un exemple. Elle dit, tu sais pourquoi quand on passe à 101 fois, ça change tout? Elle dit, c'est très simple. Elle dit, quand on allait chez les âniers, quand on voulait leur demander jusqu'à un maximum de 10 Parsa. 10 par ça, c'était une norme. D'accord, 10 par ça, on va arrondir à, c'est environ 9 kilomètres. Dès qu'on voulait faire jusqu'à 10 par ça, on se disait, tu me payeras un zouz. Dès qu'une personne disait, je veux une course de 11 par ça, on disait, tu payeras 2 zouz. Pourquoi 2 zouz? C'est du vol. Alors bon, il y en a qui vont te dire, oui, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Il y a une raison. Vous savez, c'est quoi la raison? La raison, c'est parce que, jusqu'à 10 par ça, l'ânier savait qu'il aura le temps de faire l'aller-retour. Donc il n'a pas besoin d'avoir une nuit d'hôtel. Donc, il peut rentrer chez lui. Donc, c'est une journée de travail. Par contre, quand tu lui rajoutes un kilomètre, comme à l'époque, on voyageait pas de nuit, c'était compliqué, que surtout que les villes fermées, enfin, vous savez, etc. Donc, du coup, si tu me rajoutes un kilomètre de plus, c'est vrai que c'est qu'un kilomètre de plus. Mais à cause de ça, comme je pourrais pas rentrer à temps chez moi, donc je vais devoir rester dans une autre ville, donc je vais devoir payer un hôtel là-bas, donc je vais devoir revenir demain, je vais passer la moitié de la journée demain à faire le retour. Donc, du coup, j'ai perdu pratiquement une journée. Donc, c'est pour ça que celui qui voulait faire cette course avec 11 par ça, on lui disait, tu paieras 2 zouz, le double de celui qui voulait faire une distance de 10 par ça. Qu'est-ce qu'on voit dans cet exemple? On voit dans cet exemple que finalement, pourquoi ça a été difficile pour le taxi de faire une parcelle de plus? Parce que tu as dérangé sa norme. Il a une norme, il a une habitude. Et dès qu'il touchait à sa norme, tu as fait quelque chose qui change son habitude et qui va devoir l'obliger à prendre, d'accord, deux dispositions, ça coûte de l'argent, ça. Et bien, c'est la même chose spirituellement, par rapport à l'étude. Puisque à l'époque, ils avaient l'habitude de réviser, on a dit, 100 fois. Ça, c'est la norme. C'est-à-dire qu'une personne, quand il prend son livre, il sait qu'il va réviser 100 fois. Donc, jusqu'à la 100e fois, ça ne le dérange pas. C'est un effort, mais il sait déjà qu'il va le faire. Il a été éduqué comme ça, il sait qu'il va le faire. Une fois qu'il a fait 100 fois, quand tu lui dis, viens maintenant, on va réviser encore une fois de plus. Cette fois qu'il va rajouter, elle va être plus difficile que toutes les 100 fois réunies.
C'est ça le kilomètre supplémentaire.
Eh bien oui. Pourquoi? Parce que cette fois-là, c'est là qu'il va casser sa nature. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc vous avez bien compris.
Mais les dents ont été cassées par les 100
fois. Ça veut dire que c'est clairement subjectif. Ça dépend de chaque personne. Puisque à l'époque, ils avaient l'habitude de réviser 100 fois, donc la 101e fois qui est rajoutée, elle valait à elle seule plus que toutes les 100 fois. Pourquoi? Parce que dans la 101e fois, c'est là que tu as cassé ta nature, c'est là où devient Eved. Avec ça, on comprend ce que la Gemara dit. Parce que sinon, vous voyez, si on n'a pas le commentaire du Tania, quand on lit la Gemara dit, celui qui sert Dieu, c'est celui qui révise 101 fois. Celui qui sert pas Dieu, celui qui révise 100 fois. On comprend pas ce que ça veut dire. Que ça change 100 fois, 101 fois, qu'est-ce que c'est un chiffre qui meurt au bonheur. Là, on comprend. On comprend qu'en vérité, le Tania veut t'expliquer que c'est pas une question de quantité. C'est une question de norme. Comme la norme à l'époque était 100 fois, celui qui révisait 101 fois, il a cassé sa nation d'habitude. Donc, on a compris que finalement, qu'est-ce qui fait la différence entre une personne qui sert Dieu et une personne qui ne sert pas Dieu? C'est à savoir, est-ce que j'ai cassé mon habitude? Ça veut dire que si tu as par exemple une personne qui a pris l'habitude d'étudier 10 heures par jour, eh ben, il ne sert plus Dieu. Alors, il fait des mitzvot, on fera le tapis rouge en haut, mais on peut plus l'appeler Oved Elohim. Pourquoi on peut plus l'appeler Oved Elohim? Parce que c'est plus une servitude pour lui. C'est un plaisir. C'est plus dérangeant. Par contre, s'il fait déjà 10 heures et qu'il va rajouter 5 minutes, eh ben, ces 5 minutes qu'il va rajouter vont valoir plus que tout le, ils vont valoir plus que le 10 heures. Ça veut dire que.
C'est un truc sans fin, ça. Hein.
Sans fin. Ouais. D'accord? Après, on peut rajouter, attention, comme j'ai dit la semaine dernière, on peut rajouter en quantité, on peut rajouter en qualité. Voilà, on l'a dit ça.
Il n'y a pas beaucoup de.
Ça veut dire, bien sûr, on peut tous être évêques.
Théoriquement, mais.
Évidemment. Chacun peut être évêque. Par exemple, si pour moi, j'ai fait un effort que j'arrive à venir au cours de Tania une fois par semaine, et que ça y est, c'est acquis. D'accord? Et que maintenant, je vais dire, dorénavant, je vais faire un effort pour essayer de réviser le cours. Ou pour essayer de répéter une minute du cours à ma femme. Eh bien, cette minute du cours que je vais répéter à ma femme, elle vaut plus que toute l'heure de cours que j'ai fait. Pourquoi? Parce que j'ai cassé ma nature. Chaque fois que tu casses ta nature, Dieu te dit, là, tu viens de me servir.
C'est d'ailleurs très dur de répéter un cours.
Oui.
Quand on rentre à la maison, justement, on trouve là, ce cours de Tania, cette femme, elle arrive à la maison, alors
qu'est-ce que t'as appris?
C'est dur de résumer en 5 minutes un cours qu'on a fait en 1 heure et en plus on a du mal à l'expliquer.
C'est ce que je dis,
un vrai effort de savoir si on a vraiment compris, si on a retenu
complètement.
Je ne sais pas si on peut toujours répéter parce que après c'est les acquis. Après c'est les informations qui rentrent et ça crée un acquis. Et bon, surtout que c'est un suivi, on ne peut pas comme ça.
Ouais. Moi je vous donne la cassette.
Il y a une cassette en plus. Bon, c'est comme si quelqu'un est en train d'écrire un programme informatique, on vient en plein milieu, on lui dit dis-moi ce que tu fais. Je ne peux pas t'expliquer comme ça. Ça prend du temps. Donc je reviens au sujet. Qu'est-ce qu'il veut expliquer ici, c'est quoi? Il veut expliquer ici ce que la Gemara veut dire lorsqu'elle te dit que quand on révise 101 fois, la 101e fois, c'est ça ce qui fait que tu sers Dieu alors que 100 fois tu ne sers pas à Kadosh Baruch Hu. Évidemment, il fait les mitzvot, c'est pas de problème, on lui fera le tapis rouge encore une fois. On n'est pas en train de compter, on n'est pas en train de faire le din de Rosh Hashanah. Je veux qu'on comprenne bien ça. Et je pense que depuis le début, ceux qui sont au Tania depuis le début ont bien compris qu'on est dans le Tania, on n'est pas ici en train de voir est-ce que quand je vais arriver à Rosh Hashanah, est-ce que je serai méritant ou pas méritant. C'est pas notre question ici. Ça, il y a d'alachot. Quand tu vas arriver après 120 ans, et aussi chaque année à Rosh Hashanah, on fait la moyenne, on dit où tu passes ou tu passes pas, c'est tout. Mais c'est pas ça seulement qui me préoccupe. C'est pas seulement est-ce que je passe ou je passe pas. Parce que probablement qu'on passera tous. Au Hachem, on a plus de mérite que de Averot. On essaie tous d'être des gens bien. Bezrat Hachem, on passera, il n'y a pas de raison. On fait ce qu'on peut, bien sûr. Je ne dis pas qu'on a que des mitzvot, mais Bezrat Hachem, on passera, il n'y a pas de raison. C'est pas ça qu'on est en train de chercher ici. Moi, ce que je veux me dire, c'est que je veux me dire, je suis quelqu'un qui fait les choses bien et qui sert Dieu tous les jours, au jour le jour. C'est-à-dire, tu peux avoir être méritant dans le dîn, mais concrètement, en ce qui concerne le challenge qu'on t'a donné, t'es passé à côté. Or, le challenge principal d'un homme, c'est quoi? C'est se dépasser. C'est quoi se dépasser? C'est faire quelque chose qui est contre ta nature, ou en tout cas, qui n'est pas naturel chez toi. Comme l'exemple qu'on a donné avec les âniers, comme l'exemple qu'on a donné avec les 100 fois pour passer à 101 fois. Donc on va lire ça ensemble dans les mots.
C'est le but de la création.
C'est le but de la création. Adam, Léama, Yulad, Shlomo Melech, le roi Salomon dit...
En fait, les mitzvot, elles sont faites uniquement pour casser ta nature.
Ça c'est autre chose, c'est une autre question ça. C'est aussi pour ça le Sefer HaKinuch dit comme ça, il dit que le but des mitzvot c'est pour aider une personne à travailler sa nature, mais ça c'est une autre question ça. Mais c'est évident que le roi Salomon dit Adam, Léama, Yulad, l'homme a été créé pour se fatiguer. Il n'a pas été créé pour se reposer. L'homme a été créé pour se fatiguer.
Oui, mais peut-être pour travailler la terre aussi, pas forcément tout, là-dedans.
Il n'y a pas de retraite.
Alors pourquoi on dit il faut respecter Shabbat si
on en parle ce matin, oui.
C'est pourquoi justement, il est fait pour se fatiguer, et en fait on lui dit, il faut que tu respectes Shabbat, parce que c'est là que tu te reposes, et c'est là justement que tu reprends de l'énergie, tout ça, comme si on sacralisait Shabbat par rapport au reste de la semaine.
C'est quoi le repos du Shabbat? C'est pas que je reste à dormir. Non. Le repos du Shabbat, c'est que je vais me reconcentrer vers les choses importantes. Vers les choses spirituelles, vers la famille, vers la synagogue, c'est ça le Shabbat.
Si je me concentre dans les choses
importantes. Et je me repose aussi pour travailler après.
En faisant mon travail, en essayant de gagner de l'argent et en essayant de faire des business et tout ça, je me concentre aussi.
Oui.
Dans la semaine.
Oui, mais là je me
reconcentre. Pourquoi il a moins de valeur, cette concentration?
Parce que là je me reconcentre vers les vraies valeurs. Les valeurs essentielles.
Spirituelles, matérielles.
Comme les valeurs essentielles, à savoir la famille, d'accord, la synagogue, la Torah, les valeurs essentielles. C'est logique.
On les a aussi dans la semaine.
C'est que même chez les goïms, c'est une idée qui est acceptée de plus en plus, que maintenant, un jour par semaine, c'est une idée que, je ne sais pas si vous suivez un peu, mais c'est une idée que les goïms parlent de plus en plus, qu'un jour par semaine, ils essayent de couper. Avant, à l'époque, c'était... les gens, ils disaient quand on allait au mois d'août. Ils disaient quand on va au mois d'août, il va au mois d'août, il déconnecte. D'accord? Au mois d'août, tac, on coupe tout pendant un mois. C'est moins comme ça aujourd'hui, parce que bon, les gens, ils ont toujours un travail qui leur oblige à... On peut pas couper entièrement, mais ils essayent au moins quelques jours par semaine, ils essayent au moins quelques heures par semaine, un jour par semaine, de couper, de se reconcentrer vers les valeurs essentielles pour essayer de se rappeler pourquoi on travaille. Mais on va revenir à notre sujet.
Alors, question, si t'as, tu sais que tu vas faire la 101e, mais le problème, c'est que matériellement, tu ne t'as pas la possibilité de le faire, mais t'as la volonté de le faire. Est-ce que le fait d'avoir la volonté équivaut comme si on la faisait?
Il faut le faire. Non, il faut le faire. Ouais, Tout le monde veut se dépasser. Il faut se dépasser. D'accord. Concrètement. Dans les mots. Velachen, c'est pour ça. Zot apaam amea veechat. Voilà pourquoi. La 101e fois. Ayetera la regilut shurgal mineurav. La 101e fois qui va rajouter. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est qu'elle est supplémentaire par rapport à l'habitude qu'il a depuis qu'il est jeune. Ça veut dire que pour lui, la norme, c'était de réviser 100 fois. Et ça, c'est, il a l'habitude depuis qu'il est jeune. Donc, la 101e fois qu'il va rajouter, Shkula Keneged Kulam, non seulement qu'elle équivaut contre toutes, ça veut dire que cette fois qu'il va rajouter, elle vaut autant que les 100 autres fois, Veolal Gaben, et elle est même plus importante que les autres, Veyeter Sed, Veyeter Az, elle est encore plus forte, Liot Nikra Oved Elohim, puisque c'est celle-là qui va faire qu'il a appelé Oved Elohim, qui sert à Kadosh Baruch Hu. Alors, il y a celui qui va vouloir faire le malin, qui va dire, ben dans ce cas-là, je fais directement la 101e fois. Sauf que pour arriver à la 101e, on ne peut pas les 100 premières. Alors c'est la même chose, vous savez. On parle souvent par exemple du juif de Kippour. On dit le juif de Kippour, c'est ça, il a cassé sa nature. Parce que sa nature, il n'a rien à faire à la synagogue, il a cassé sa nature. Alors t'as des gens qui vont dire, oui, ben dans ce cas-là, je vais devenir juif de Kippour, c'est plus simple. On te dit non. Maintenant que t'es juif pratiquant, eh ben pour toi maintenant, ta marche de juif de Kippour, c'est quand tu vas casser ta nature et tu vas faire quelque chose que tu ne fais pas d'habitude. Et ça, c'est le but. Toujours rajouter quelque chose, essayer de rajouter quelque chose que je ne fais pas. Et c'est ça ce qui va faire.
Ben justement, pour celui qui fait le jeûne, il casse son habitude, il n'a pas besoin de venir à la synagogue.
Qui c'est?
Par exemple.
Toute l'année, il est où?
Toute l'année, il fait ce qu'il a envie de faire.
Hein, d'accord. Bon.
Et puis, le jour de Kippour, il ne vient pas à la synagogue. Mais le fait d'avoir fait le jeûne, donc il a cassé
sa nature.
Donc, voilà.
Évidemment.
Alors, donc, ça, c'est pas la peine de venir à la synagogue.
J'ai pas dit ça, mais après, l'année d'après, il faut qu'il se dépasse. D'abord un bébé, il commence à dire ba. Après le challenge, il va pas dire ba toute sa vie. Ouais, il va commencer à former des mots. Après il va former des phrases. Ça veut dire que ce que j'ai acquis aujourd'hui, demain c'est la norme. Donc tous les jours il faut dépasser. Ça c'est ça le ridouche.
Et si je veux penser tordu, un petit jeune, un adolescent qui a vécu dans la Torah,
oui.
Il casse sa nature. Il va au McDo.
Ça sent mal, ça.
Ouais, il a cassé. Il a cassé au McDo.
Non, mais là, je dis qu'est-ce que c'est la nature en bien. Il va tester la nature pour aller pour rajouter.
Il a pris un fiche.
Sans dose. Mifné. Alors.
Ma fiche.
Maintenant, il va expliquer ici. Alors, c'est intéressant ce qu'il va expliquer maintenant.
C'est quoi Ahava Mesuteret?
On n'a pas encore fait Ahava Mesuteret.
Ah bon?
Oui, t'as fait Mesuteret. C'était avant ça.
Ouais, juste avant.
L'amour caché.
Dailo Be'ahava Mesuteret.
Oui. Ça c'est la semaine dernière, ça s'explique après si tu veux. Alors, Mipné, Shekadé, non, c'est la semaine dernière. Mipné, alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Comment je casse ma nature? Comment une personne arrive à casser sa nature? Il va expliquer ce qui se passe à l'intérieur. Ça, ouais, d'accord? Mipné, Shekadé, le Shanot Tevar Gilout, pour changer la nature de ce qui est l'habitude, Tsarir, les horaires, et ta Ahava Lachem, elle est déchimit Bonen, Bigdoula Tachem, Memoro. Comment il va faire le Benoni pour casser sa nature? Il va devoir se convaincre. Qu'il faut que je rajoute. Comment il va se convaincre qu'il faut qu'il rajoute? Il faut qu'il pense à la grandeur de Dieu. C'est-à-dire, il faut qu'il pense comment Kadosh Baruch Hu c'est important, et comment c'est très important, et comment il faut rajouter. Ça veut dire qu'il faut qu'il se convainque. Et ça prend du temps, ça, de se convaincre. L'ishlot à la teva chez Bechalal Asmali. Tout ça pourquoi? Pour dominer la nature qui est du côté gauche. Vous vous rappelez, dans le chapitre 9, on avait expliqué qu'il y a le côté gauche, le côté droit, dans le d'accord? On a expliqué que dans le côté gauche, il y a une nature qui fait que la pesanteur. Ça veut dire qu'elle te dit, ce que tu fais, c'est bien, ne rajoute pas. Et chaque fois que je vais me battre pour ajouter quelque chose, je me bats contre moi-même en vérité. Je me bats contre personne, je me bats contre moi-même. Je me bats contre une nature en moi, qui est une nature d'apaisanteur, qui te dit ce que tu fais, c'est bien, ça y est, arrête-toi maintenant. Et quand je veux rajouter quelque chose, je me bats contre cette nature-là. Et pour me battre contre cette nature, il faut sortir les grosses armes. C'est quoi les grosses armes que j'ai? L'artillerie que je vais sortir, c'est le fait que je vais penser à la grandeur de Dieu. Je veux dire, qu'est-ce que Dieu attend de moi maintenant? Dieu attend de moi que je reste le même. Dans ce cas-là, il aurait pu enlever ma vie à 20 ans. Si je suis resté le même de 20 ans à 60 ans, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai produit pendant 40 ans? J'ai rien rajouté. À quoi j'ai servi pendant 40 ans? J'ai produit la même chose. Dieu veut que tu rajoutes. Je dois me dire qu'est-ce que j'ai innové cette année? Qu'est-ce que j'ai rajouté cette année? Si j'ai rien innové, c'est pas bon. On peut pas être là tout le temps à faire la même chose. Parce que dans la Torah, quand on n'avance pas, on recule. Vous savez pourquoi? Un commentaire chassidique qui dit comme ça. Il dit, le Yetzara, il avance avec le temps. Lui, il avance. Il évolue. Et donc, quand toi, tu dis, dans la Kedusha, oh, Hachem, ça y est, j'ai ma vitesse de croisière, je reste. Qu'est-ce qui se passe? C'est que dans la Kedusha, effectivement, tu restes à la même place. Mais comme le Yitzhara, il évolue, donc du coup, il te largue. Donc du coup, t'es dépassé. Donc puisque le Yitzhara évolue constamment, toi aussi, t'es obligé d'évoluer constamment. Pour le contrer. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Tu te fais écraser par ton Yitzhara.
Donc on est en permanence dans un processus de création et d'innovation.
Permanence. Ça, c'est l'homme. L'homme, c'est un innovateur.
Mais c'est à toi de définir ce que tu veux créer.
Ça c'est le chidouche principal de l'homme. La nouveauté, la particularité principale de l'homme, c'est que l'homme est capable d'innover. L'homme n'est pas une machine. Une machine n'innove pas. Un homme innove. Constamment, il doit innover. Et dès qu'il arrête d'innover, c'est là que c'est fini. C'est là qu'il périt. Il faut constamment innover. C'est comme dans tout dans la vie. Dès que tu arrêtes d'innover, c'est fini. Il faut constamment innover.
Mais j'innoverai en étudiant ce qui est déjà écrit, ce qui est déjà connu. Ah, qu'est-ce que j'apporte?
Mais j'innove en essayant, moi, de comprendre.
Ouais, d'accord, mais bon, mais j'apporte rien à l'humanité.
Mais j'ai innové en ma personne. Ouais. Je peux dire que moi, j'ai changé.
Ouais, d'accord, mais je peux innover dans d'autres domaines, pas forcément dans celui-là.
Pas de problème, oui. Mais là, je parle de la Torah maintenant.
Ah, ouais,
pas de problème.
Bon, on est en bas.
Carapard, enfin. Je parle de la Torah maintenant. Alors, donc, Amalé Dame.
Qui c'est que vous allez pardonner quelque chose aussi de...
Pardon,
qui c'est? Qui c'est que vous avez peut-être amené quelque chose supplémentaire qui n'a jamais été découvert dans la Torah? C'est possible?
Moi, monsieur Benita,
oui, monsieur.
Moi je dois me poser la question, d'accord? Chacun de nous doit se poser la question. Après 120 ans, quand je vais partir, qu'est-ce que j'aurai amené au monde? En quoi le monde était différent avant que je sois là et après que je suis passé par le monde?
Ah ben, il est différent par toutes les innovations, les technologies, les.
Non, je parle pas du monde, je parle de vous. Qu'est-ce que vous avez rajouté au monde que le monde n'avait pas?
Enfants.
Par exemple, voilà. Ok? Très bien. Je peux dire, j'ai éduqué des enfants. Tout le monde a procréé des enfants. Moi, j'ai éduqué des enfants. Je les ai éduqués dans la Torah. Ça, c'est ce que j'ai innové. Et ça, c'est une innovation qui est éternelle, parce que ces enfants auront des enfants qui auront eux-mêmes des enfants. Je peux partir en disant, j'ai fait ça. D'accord? Je peux partir en disant, je suis né, je connaissais rien. Avec le temps, progressivement, j'ai appris et j'ai avancé. J'ai raffiné mon corps, j'ai raffiné ma personne, j'ai rajouté quelque chose, j'ai fait un combat pour Dieu.
Mais c'est une innovation, parce que quand Hachem a donné les tomes de la loi, il nous a demandé en échange une garantie, on a donné...
Mais c'est une innovation dans le sens que j'ai fait quelque chose qui n'était pas acquis. D'accord? Comme il y a plusieurs qui n'étaient pas la semaine dernière, je vais répéter l'exemple. C'est comme par exemple, tu vois un enfant qui commence à faire son premier pas. Pourquoi t'es content? Dans 2 ans, il va courir, tu vas lui dire arrête de courir, tu me casses les pieds. Pourquoi t'es content qu'il fait le premier pas? Parce qu'il a innové. Il n'était pas capable de marcher, maintenant il a marché. C'est l'innovation. L'innovation, ça fait plaisir à Kadosh Baruch Hu. Dieu nous a créés dans le monde pour innover. On doit constamment en train d'être innové. comme le Yetzer Hara innove lui aussi, il innove constamment.
Donc les choses naturelles sont perçues comme l'innovation dès lors que c'est la première fois ?
Non. Dès que j'ai cassé ma nature, ça
parce
s'appelle.
Que tous les enfants, tous les bébés, à un moment et à un autre, ils vont tous marcher, ils vont tous parler. Donc il n'y a rien d'inneux. Bah, comment
non,
ça,
non, non. Bah, si, la majorité.
À part
si.
Quelques-uns qui sont muets de naissance.
D'accord, j'ai compris.
Mais bon, mais il va marcher.
Mais pourquoi, muet, il va marcher. Pourquoi ça suscite notre admiration ? Parce qu'ils ont innové. De la même manière, dites-vous qu'on est comme des bébés par rapport à Kadosh Baruch Hu, et chaque fois qu'on innove, chaque fois que tu vas rajouter une minute de Torah, un truc par là, ben c'est comme vous quand vous étiez devant votre bébé et que vous dites « Ah, il a fait un pas !» Après, il s'est cassé la figure, mais il a fait un pas. C'est la même chose. Nous, on est comme des bébés devant Kadosh Baruch Hu. Chaque fois qu'on innove, tu dis « Voilà, il a innové. » Et ça, ça le fait plaisir plus que tout. Parce qu'on n'est pas là pour faire du chiffre. Vous croyez qu'Akadosh Baruch Hu a besoin de nos mitzvot ? Akadosh Baruch Hu veut voir qu'on a innové, et ça, ça lui fait le plus grand plaisir. Chaque fois que j'ai réussi à casser mon Yitzhara, le Zohar dit des mots extraordinaires. Il dit, chaque fois que tu as réussi à casser ton Yitzhara, tu procures un plaisir à Kadosh Baruch Hu, un plaisir qui est plus grand que la création du monde. Parce que pour Dieu, c'est pas une innovation de créer le monde. C'est rien pour lui de créer le monde. Par contre, que toi, tu as cassé ta nature, il dit, ah, il a innové. Il a fait quelque chose que même moi, j'aurais pas pu faire à sa place. Mais on va développer dans les mots. Donc, Amal et Dam, Anefesh Abemit, Shebeklipa, Shememena Yateva. Donc, le processus qui se passe, chaque fois que je me bats contre mon Yitzhara, je me bats, d'accord, en réfléchissant à la grandeur de Dieu, pour dominer ma nature d'apaisanteur qui fait que j'ai pas envie d'avancer. Et donc, automatiquement, la nature, cette nature d'où elle vient de mon âme animale, qui me pousse à ne pas vouloir changer. Et donc, je me bats avec ça. Vezoi avoda tama la benoni. Ça, c'est un travail extraordinaire, un travail parfait pour le benoni. Ça, c'est le travail du benoni. C'est-à-dire que là, on commence à définir un peu les contours du Benoni. On comprend que le Benoni, c'est pas seulement quelqu'un qui se bat contre une Yetzara. C'est quelqu'un qui innove. Ça, c'est le Benoni. Et quand quelqu'un innove, à Kadosh Baruch Hu lui tue Benoni. Ça, c'est une première option. Comment on casse son Yetzara? Deuxième option. Ou bien. D'accord? Les horaires et avam souterrain chez Belibo. Limshol aliada à la teva chez Bechal Asmali. Il y a une deuxième technique qu'on va développer longuement dans les chapitres suivants. Surtout à partir du chapitre 18. Alors avant, quand on était au chapitre 18, on croyait que ça allait être dans deux ans. Et là, chapitre 18, c'est on est déjà au chapitre 15 maintenant. Alors, dans chapitre 18, on va expliquer quelle est la définition de l'amour caché. On en a parlé au début du chapitre, et on va parler un petit peu après. Qu'est-ce que c'est l'amour caché? On part de la base que chaque juif, depuis Avraham Avinu, on a reçu un héritage d'Akadosh Baruch Hu, qu'on a en nous un amour caché dans Akadosh Baruch Hu. C'est un cadeau. Quand Avraham Avinu, lui, il a découvert Dieu par ses propres moyens. Il s'est battu pour ça. Ça veut dire qu'il a réfléchi, il arrive à des conclusions, et un beau jour, Dieu est venu le voir, il lui dit, tu t'es pas trompé, t'as bien trouvé, il y avait un Dieu. Mais il a tout découvert de ses propres moyens. Dieu lui a dit, la bracha que je vais te donner, qui est tzavet benavet betoharav, dit le Zohar, même la Gemara dit ça, c'est quoi? La bracha que je vais te donner, c'est que dorénavant, tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, vont croire à Kadosh Baruch Hu, vont croire en Dieu en eux-mêmes. Ça veut dire qu'en eux-mêmes, ils auront en eux cette émouna qui est cachée en eux. Seulement. Pourquoi j'appelle ça l'amour caché vers Akadosh Baruch Hu? Parce qu'il est caché. C'est-à-dire, tu peux avoir des gens qui, toute leur vie, ne savent pas qu'ils ont cet amour. Alors que, s'ils le savent pas, alors à quoi ça sert? À quoi ça sert? Quelqu'un, tu lui dis, il a un trésor sous lui, mais il sait pas qu'il a. Sauf que, quand je sais que j'ai un trésor caché en moi, même si j'ai pas encore été capable de le développer, le fait même que je sais qu'il est déjà, qu'il est caché, qu'il est présent, hein, alors je me dis, bon, je travaille pas pour rien, je sais qu'il est là. C'est pas quelque chose que je vais essayer un business, peut-être ça marche, peut-être ça marche pas. Je sais que ça marche, je sais qu'il y a une mine d'or qui est en dessous ici. Maintenant, tu vas bien chercher, tu vas trouver. C'est pour ça que le Baal Shem Tov, il dit que le prophète, dans plusieurs endroits, il nous compare à la terre. Israël est comparé à la terre. Pourquoi la terre? Quand je vois la terre, qu'est-ce que je vois? Je vois rien, je vois de la terre. Mais ceux qui savent creuser dans la terre vont te dire, mais tu crois que la terre c'est comme ça, c'est juste de la terre? Il y a des trésors dans la terre, il y a des mines, il y a des ruisseaux, il y a des sources, il y a des choses extraordinaires qui se passent dans l'eau que toi tu vois pas. Seulement, il faut savoir creuser au bon endroit.
Pardon.
D'accord? Le Baal Shem Tov dit c'est la même chose. Il dit, un juif, on doit savoir que c'est comme une terre. C'est-à-dire qu'un juif, au fond de lui, il a la émouna à Kadosh Baruch Hu. Seulement, des fois, il faut creuser pour ça. Ça, c'est vrai. Il faut creuser. Et après, quand on creuse, à un moment, on sait pas quand, à un moment, ça va jaillir, ça va sortir. Ça, c'est ce qu'il dit ici. Comment on va faire le Benoni pour casser sa nature? Deux options. Soit la première option la plus difficile, c'est qu'il va penser à la grandeur de Dieu. Il va penser à la grandeur de Dieu, tellement il va réfléchir qu'à un moment, ça va décoller, il va se dire, bon, allez, qu'est-ce que je fais pour Dieu maintenant? Mais ça, c'est très compliqué, ça, parce que bon, il faut bien réfléchir, il faut être dans un certain niveau pour dire ça. Il dit, bien, une deuxième option. Je commence pas à la penser à la grandeur de Dieu, je veux pas m'isoler, etc. Juste, je vais simplement éveiller l'amour caché qu'il y a en moi, on va expliquer comment. Donc, l'imshal aliada alateva, Shebechalal Asmali. Je vais utiliser cet amour caché que j'ai en moi pour dominer par cet amour caché, d'accord, ma nature. Ça veut dire qu'en vérité, tu dis, tu n'as pas besoin de réinventer la roue. En toi, tu as cette capacité de casser ton Yetzara. Seulement, la deuxième possibilité, c'est que justement, tu vas utiliser ce que tu as en toi pour casser ton Yetzara. Ça veut dire qu'un juif va se dire, bon, ça se fait pas, je suis juif, etc. Et donc, il va faire un effort et à un moment, ça va décoller. Chez Zé Nikra Gamken Avoda, Leilachem Imateva Vayetzer. Ça, c'est appelé également un service et donc une servitude. J'accélère un peu parce que je vais expliquer à l'oral. Leilachem Imateva Vayetzer, de se battre contre la nature et contre son Yetzara. Aliédé, chez mes horaires, à Ahava, à Mesuteret Belivo, en éveillant l'amour caché qu'il y a en verdure. Alors, je vais essayer d'expliquer un peu ce qu'il dit ici parce que là, il dit des choses très profondes qu'on peut pas bâcler comme ça. Il dit comme ça. Il dit, en fait, il y a deux options. Comment casser ma nature? Comment me dépasser? Je vais commencer par la deuxième. Deuxième option, d'accord, parce que c'est celle qu'on vient de dire. C'est quoi la deuxième option? C'est de me dire, bon, écoute, je suis juif. Dieu attend de moi quelque chose dans le monde. Donc, je vais essayer. Et donc, je me dis, bon, ça se fait pas. Il faut que je rajoute un peu. Je vais essayer de rajouter un cours de Torah. C'est vrai. Bon, et je me dis que je vais rajouter. Je me suis pas vraiment battu avec moi-même. C'est très bien. Ça peut marcher, ça. C'est-à-dire, le fait même que je me dire, bien, des fois, quelqu'un m'a parlé. Un ami m'a parlé, ou un rabbin m'a parlé, ou un tzaddik m'a parlé. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, le tzaddik? Pourquoi, quand un tzaddik m'a parlé, tout de suite, pac, je me dis, je vais l'écouter? Parce que le tzaddik, il a su creuser au bon endroit pour te faire sortir l'amour caché que tu as en toi. Mais c'est pas venu de moi. Ça, c'est le défaut. Donc, comme c'est pas venu de moi, eh ben, ce sentiment de casser ma nature, il peut repartir aussi vite qu'il est venu. Par exemple, voilà, les fêtes. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les fêtes? On est bien passé par les fêtes de Tishri. Ben, les fêtes de Tishri, c'est un moment dans lequel Dieu nous a aidé à faire sortir l'amour caché qui est en nous vers Akadosh Baruch Hu. On avait les fêtes de Simchat Torah, Rosh Hashanah, Yom Kippour. Donc, les gens, ils ont pris des grandes décisions pendant les fêtes. Et bien, ils ont pris des décisions. Ils ont utilisé l'amour caché qui est sorti pendant les fêtes pour se battre contre le Yetzara. Ils ont pris des décisions de se battre contre le Yetzara pendant toute l'année. Concrètement, est-ce que ça va marcher pendant l'année? Est-ce que ça a marché? Je ne sais pas combien de pourcents. Ça ne marchera pas beaucoup. Ça marchera, mais pas beaucoup. Pourquoi? Parce que dans la deuxième approche, ce n'est pas venu de moi. C'est quelque chose que j'avais en moi, mais je ne me suis pas battu avec moi-même, finalement. J'ai développé quelque chose que j'avais déjà en moi. Mmh. Et bon, ça marche comme ça marche. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la première approche? La particularité de la première approche, c'est que je vais me battre avec moi-même. Ce n'est pas juste que je vais me dire, bon, je suis juif, il faut que j'avance, je suis parti voir un tzaddik qui m'a donné une bracha, et on va avancer. J'ai transpiré pour ça. D'accord? C'est pas été inspiré, j'ai transpiré pour ça. J'ai réfléchi à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et je me suis posé la question où je me situe moi par rapport à Dieu et qu'est-ce que Dieu attend de moi et qu'est-ce que moi j'attends de Dieu et qu'est-ce que j'attends de ma vie. C'est-à-dire, je me suis remis complètement en question. Là, dans ce cas-là, quand je me suis remis en question et que j'ai tout remis à plat et que je suis arrivé à des conclusions, ces conclusions, c'est du béton armé. Seulement, vous comprenez que ce combat-là dure beaucoup plus de temps. Et c'est pour ça que l'Admor HaZaken te dit, le Benoni, pour se battre avec son Yetzara, pour se battre avec sa nature, pour se forcer à se dépasser, il aura ces deux approches. On reviendra beaucoup plus longuement dans la suite pour expliquer ces deux approches, mais là, en tout cas, je vais donner un petit topo rapide pour dire qu'il y a deux manières comment se battre contre son Yetzara. Ça veut dire que si vous croyez que, par exemple, quelqu'un y croit, on va aller chez le rabbi, il va lui donner une bracha, et on va repartir, et on est parti pour un an, ça ne marche pas comme ça.
Est-ce qu'il y en a un qui est plus efficace que l'autre?
C'est pas plus efficace, il y en a un qui est plus rapide que l'autre.
En termes de rapidité,
oui, un qui efficace. Est plus rapide que l'autre, mais comme il vient pas de moi, donc ça tient pas longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme, par exemple, d'accord? Par exemple, on dit que, tout à l'heure vous avez parlé de l'argent, de l'argent qu'on a gagné. Là, vous avez dit l'argent qui vient vite par vite, c'est ça ce que vous avez dit?
Bien sûr. Les connaissances
viennent. Oui. Voilà.
On les perd vite et alors, celles qui sont longues.
C'est comme, vous savez, c'est comme quelqu'un, par exemple, qui n'a pas travaillé pour gagner de l'argent. Un enfant, comment ça pour gagner de l'argent? Non, il n'a pas travaillé. Il n'a pas travaillé, son père lui a donné de l'argent. Il n'apprécie pas cette valeur. Il n'apprécie pas la valeur de cet argent. Donc, du coup, ce qui est venu vite partira vite. Par contre, si c'est travailler pour avoir cet argent-là et que c'était difficile pour lui, ça va prendre beaucoup plus de temps, certes, mais c'est du béton armé. Donc, ça, c'est la différence qui est ces deux grandes approches. Et il faut savoir que dans la chassidoute, de manière générale.
Marcel.
Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu les chayim au Zania. Il y a chassra. C'est ça comme de la bouteille?
J'ai amené une petite wave.
Pardon. Il y a un bon exemple qui donne le Rav Benichou. Il avait donné là-dessus, il comparait ça au jardin japonais. Il disait quand il était petit, il aimait bien aller avec sa maman acheter les plantes parce qu'elle plantait la graine et elle lui montrait, regarde la graine qu'on a plantée, l'arbre que ça va donner, etc. Et quand ça fait... Il dit par contre le jardin japonais, il dit à peine tu plantes tout de suite, t'as des feuilles, tu sais.
Ouais.
Il dit mais au bout d'une semaine, il n'y a plus rien. Tout est... Ce qu'on acquiert vite, ça part
vite. Ça part vite. Ah, Zach, c'est un bel exemple.
Lui.
Merci. Allez, Chaim.
Un doigt.
Akadosh Baruch Hu nous aide à nous dépasser. Mechaim, mechaim.
Marcel, n'oublie pas de ça.
Mechaim, Tovi Mushalam et Yamash Bekarov.
Amen.
Qu'est-ce qu'on a à dire?
Oui.
Vendredi, samedi, on fait les rimes à la maison. On ne dit pas, on ne dit pas, Mechaim Bekarov. On ne dit pas, chéri.
Ok. Donc, dans les mots, ce qu'il dit ici. Donc, encore une fois, je résume. Il y a deux approches, comment se battre avec son Yitzhara. La première approche est une approche rapide, dans laquelle j'essaye d'avoir des sensations le plus rapidement possible pour que ça décolle. Mais le problème, c'est que quand c'est rapide, si ça vient vite, ça part vite. La deuxième approche, c'est que ça vient par un effort. Vous avez remarqué que le Tania, qu'est-ce qu'il a mis comme approche? Laquelle il a mis en première? Il a mis l'approche dans laquelle t'es dit. Il a mis celle que moi je viens de dire en deuxième, ça veut dire celle dans laquelle je me bats avec moi-même, que c'est un travail qui dure longtemps. Pourquoi? Parce que l'approche principale de la Chassidut Rabat, c'est cette approche-là. C'est de faire un travail qui dure longtemps, qui prend plus de temps, mais qui est plus durable. Et une fois on avait expliqué que ça c'est la différence qu'il y a entre la Chassidut Rabat et d'autres Chassidut. Dans d'autres Chassidut, dans d'autres courants, on te dira, ce qui compte c'est de faire du chiffre le plus rapidement possible. Donc on te dit, viens comme tu es, c'est pas grave, viens comme tu es, tu fonces et hop, on essaie de te faire des sensations et il faut que ça décolle. C'est une approche qui tient la route, qui est très bien. Mais la Chassidut Rabat te dit, ça marche pas comme ça. Elle te dit, si ça vient vite, ça partira vite. Elle te dit, pour que ça tienne, il faut, tu as l'obligation, si tu veux que ça tienne, il faut que ce soit quelque chose qui vienne difficilement. Il faut que tu te bagues ton Yitzhara. Il faut que tu te resitues et que tu te poses la question, où je me situe par rapport à Dieu, où Dieu se situe par rapport à moi, qu'est-ce que Dieu attend de moi, qu'est-ce que moi j'attends de Dieu, que tu te remettes tout à plat. Et c'est seulement quand tu as fait ça, et ça prend des années ça, seulement quand tu fais ça, que là tu peux dire que tu vas arriver réellement à te dépasser et à analyser objectivement qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu attend de moi.
Déjà pour penser comme ça, il faut être capable.
Chacun de nous est capable de le faire.
Non mais il faut être capable.
Tu as raison, c'est vrai.
Déjà pour avoir la conscience de pouvoir penser comme
oui,
ça, il faut être capable.
Tu as raison.
Après pour penser, il faut être encore capable. Et pour y arriver, il faut être encore capable.
Pose-toi la question, je me pose la question à moi. C'est quand la dernière fois que je me suis battu avec mon Yitzhara? Des fois c'est difficile à répondre à cette question. Monsieur Benita, c'est quand la dernière fois que vous êtes battu avec votre Yitzhara?
Tous les jours, hein, on se voit.
Attendez. C'est quand la dernière fois que vous êtes battu avec vous-même?
On
dira
pas à la maison.
Je connais rien.
C'est quelque chose de difficile. Vous savez, après on rentre dans une routine. D'accord, non, mais c'est sérieux. C'est sérieux comme question. Après, des fois on rentre dans une routine. Bien sûr qu'après on va se battre dans des petites choses contre le Yitzhara. Mais je veux dire, c'est quand la dernière fois que je me suis battu avec mon Yitzhara pour rajouter un événement majeur dans ma vie, pour rajouter quelque chose d'important. C'est difficile à répondre. Parce que vous savez, après on rentre dans une routine, et après on change plus vraiment. On change plus vraiment. Et c'est ça que dit la Dmorazaki. Il te dit le plus important, c'est d'innover, de casser. Regardez, je vous donne un exemple très simple. Regardez l'innovation qu'on a fait de 0 à 20 ans. Combien les pas de géants qu'un homme a fait de 0 à 20 ans? Et posez-vous la question, est-ce que de 20 à 40 ans, il a innové autant qu'il a innové de 0 à 20 ans? Clairement non, même pas 5%. Il n'a pas innové même pas 5% de ce qu'il a innové entre 0 et 20 ans. C'est une réelle... Pourquoi? Comment ça se fait? Parce que comme il est déjà assez une stature, il est déjà stable, alors bon, bah, il reste comme ça. C'est très difficile d'innover. On ressent le besoin d'innover quand on sent que ça marche pas, mais quand on sent que ça marche, pourquoi tu veux que j'innove? Et ça, c'est l'effort de l'homme de chercher à innover constamment, même quand ça marche. C'est ça le risque.
C'est dur de tenir aussi, parce que je prends l'exemple de celui, je sais pas, il va étudier une heure par jour.
Oui.
Il dit bon, allez, je vais rajouter cette année. Et puis il a rajouté une heure et une autre heure et une autre heure. Du coup, il n'y arrive pas, il tient plus. Il dit bon, est-ce que je vais pas tout envoyer balader? Ou alors le pire.
Est-ce que tu as remarqué à l'époque du Talmud combien de fois ils ont rajouté sur les 100 fois?
Une fois.
Donc c'est 1%. C'est rien. Tu dis, mais c'est rien, t'as fait 100 fois, c'est rien une fois. Rajoute 200 fois.
Mais
non, il a rajouté une fois. Il
n'y
a pas besoin de faire beaucoup. Même une minute. Le fait d'avoir rajouté quelque chose, cette minute-là, elle coûte plus que tout. C'est la guerre contre le Yitzhara, cette minute-là. T'as fait cette minute-là, t'es battu contre le Yitzhara. Il n'y a pas besoin de faire des grands chiffres.
En fait, on ne te laisse pas respirer. Hein.
C'est quoi?
Il faut tout le temps se battre, tout le temps se...
Monsieur Benita, je ne me fais pas de soucis pour vous.
Alors. Pardon. Je ne me fais pas quoi?
Je ne me fais pas de soucis pour vous.
Ah ben, quand même. C'est une lutte en permanence.
Et bien sûr. Alors. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Benita.
Il y a la mafia, ben ça, allez, on va continuer.
Ken, j'ai pas compris, mais bon.
Il n'y a pas de mal.
J'avais dit les Haïm, il est où les Haïm?
Ah, le voilà. Allez, les Haïm. Ah, drop, chouïche.
Mazal Tov, c'est l'anniversaire hébreu.
Qu'est-ce qu'il a eu?
Il y en a deux. Non, l'anniversaire normal.
Ah non, le normal c'est l'hébreu.
Bah, ça compte quoi ça?
Ça promet le gâteau.
Bon, je te prends le calcul après.
Pour faire les Haïm, c'est pas?
Les Haïm.
Allez, les Haïm.
Mazal Tov. Mashenken,
il faut détendre un peu
milchama klal. Lorsqu'une personne n'a pas du tout de guerre contre son Yitzhara,
pas au bureau aussi.
Ein avazlo mitzaratzman, nikret avolato klal. Si maintenant j'ai pas de guerre avec mon Yitzhara, et que j'ai simplement utilisé les outils que j'ai déjà en moi, c'est-à-dire l'amour caché que j'ai en moi, le fait que je suis juif de série par nature, est-ce que je peux dire que c'est mon travail? Est-ce que je peux dire que moi j'ai servi Dieu? Non, c'est pas moi qui ai servi Dieu. Dieu il m'a créé une machine qui s'appelle mon corps, et si je me suis pas battu contre moi-même et que j'ai simplement suivi la routine, donc c'est pas moi qui ai servi Dieu. C'est mon corps qui a servi Dieu. C'est ma nature qui a servi Dieu. Pour être capable de dire que c'est moi qui ai servi Dieu, c'est qui le moi? Le moi, c'est quand j'ai eu une volonté d'aller au-delà de ma nature. Ça, c'est le moi. Le moi, c'est celui qui a été capable, c'est celui qui a pris la décision de dire « Ma nature dit ça, moi je dis ça ». Là, on peut dire, tu vois, cette marge que tu as rajoutée, ça, c'est ton moi. Tous les autres 100 choses que tu as fait, c'est pas toi, c'est ta nature. Et ta nature, c'est Dieu qui te l'a donné, donc t'as rien fait, toi. Tu sers à rien. Moi, c'est ce que j'ai rajouté dans ce qui était en plus de la nature qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné. Ça, c'est le chidouche. Ça veut dire qu'en vérité, le moi va s'exprimer dans ce que je vais dépasser par rapport à ma nature. Donc là, on a une nouvelle définition qui, en vérité, c'est quoi le moi d'après la Kabbalah? Le moi, c'est la décision que je vais prendre qui va dépasser ma nature. Et là, je réalise, d'accord, qu'en vérité, la majorité des choses qu'on fait pendant la journée, c'est des choses qui sont liées à notre nature. Notre nature spirituelle, notre nature matérielle, mais c'est une nature. Donc si c'est une nature, je peux plus dire que c'est moi qui l'a fait. C'est ma nature qui l'a faite. C'est la machine qui l'a faite, c'est pas moi qui l'a fait. Pour dire que c'est moi, il faut que je dise qu'en vérité, ma nature ne voulait pas le faire. Et que moi, avec ma décision qui décide et qui a le dernier mot, je dis, je le fais quand même. Donc, là, on peut dire,
j'ai fait quand même. Il faut faire les deux. Il faut faire la nature plus le moi.
Ouais. Donc là, avec ça, on peut comprendre comment en vérité, il suffit d'une petite action pour dire que j'ai cassé ma nature et que ça, en vérité, c'est un plaisir extraordinaire à Kadosh Baruch Hu. C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité qui compte.
Le tzadik n'est pas au Vedachem?
Sur ça, non.
Sur rien, là.
Le tzadik, il n'est pas au Vedachem, non. Mais pas forcément. En tout cas, pour lui, pour être au Vedachem, c'est beaucoup plus difficile. C'est très difficile pour être au Vedachem.
Il
est Even. Il n'est pas Oved.
Le
SR. Ça veut dire qu'il a déjà atteint une vitesse de croisière. Mais après, je te dirais que le tzadik, bon, il a d'autres objectifs. C'est pas comme nous. Nous, on a un objectif d'être une personne qui sert Dieu constamment, qui se bat contre son Yitzhara. Le tzaddik, il a deux objectifs. Le tzaddik, c'est les forces spéciales de Dieu. Tu comprends? Bon, ça, c'est autre chose. Le tzaddik, c'est autre chose. Mais nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, chaque fois que j'ai fait quelque chose qui est contre ma nature, c'est là que je peux dire c'est moi qui ai décidé. Sinon, c'est pas moi. C'est ma nature. C'est ma nature qui a tourné toute seule. Un animal aussi, il a une nature. Tu sais que les animaux aussi, ils ont une nature. Les animaux aussi, ils ont des réflexes. Les animaux aussi ont des instincts. C'est quoi le moi? Donc quoi je peux dire que je suis un homme? C'est quand j'ai décidé quelque chose qui dépasse ma nature. Là, je peux dire que je...
C'est le kilomètre supplémentaire.
Exactement. Mmh. C'est le extra mile, comme ils disent les Américains. Hein. Voilà. Ok. Donc là maintenant on a compris, en tout cas pour conclure ce pérec, on a compris, si on pouvait résumer en un mot tout ce qu'on a expliqué dans ce pérec, c'est la notion d'être Oved Elohim. C'est quoi un Oved Elohim? C'est quoi une personne qui sert Dieu? C'est une personne qui va au-delà de sa nature, qui va rajouter, comme on a dit, un élément supplémentaire. Pour faire ça, il va se battre contre sa propre nature. Alors, on a donné deux différentes techniques. Soit une technique rapide, mais qui ne tiendra pas longtemps. Soit qu'il va se battre vraiment avec son Yitzhara. Et on a dit que là, quand il va se battre avec son Yitzhara, il pourra dire, moi, j'ai fait ça. Sinon, t'as rien fait du tout. Tu vois rien. C'est ta nature qui a fait. Qui a tourné tout ça.
Je pense pas qu'il y a une nature dans les mitzvot.
Évidemment.
Les pétards, ça peut être revêt, parce que chaque fois, même si je me lève depuis 50 ans à la tefila, je peux un jour me lever et me dire, je veux pas la tefila.
Mais il y a une routine.
Non, je pense pas.
Mais il y a une routine.
Mais la routine, tu te forces à la faire.
Est-ce que pour toi, c'est difficile de faire Shabbat? Est-ce que pour toi, c'est déjà arrivé qu'un Shabbat, un matin, tu te lèves, tu te dis, tiens, aujourd'hui, je vais allumer la télé, je vais allumer la lumière?
C'est pas difficile de faire Shabbat, mais c'est...
Pourquoi c'est pas difficile?
De ranger les ongles pendant Shabbat.
Pourquoi c'est pas difficile?
Mais c'est difficile de pas me ranger.
Donc ça, c'est ta marge d'effort. Pourquoi c'est pas difficile pour toi de dire, je vais venir à la choule? Parce que c'est une routine. Donc, je peux pas dire que moi je suis venu à la Shul Shabbat. C'est ma nature qui est venue à la Shul Shabbat.
C'est pas parce que c'est une routine que c'est pas une avoda de venir.
Attention, je précise. J'ai pas dit que, par exemple, venir à la synagogue le Shabbat, bon, c'est un pli que j'ai pris depuis des années, c'est une évidence, je le fais. J'ai pas dit que c'est pas un mérite. C'est un mérite et tu me récompenseras pour ça, y a pas de problème. Mais je peux pas dire que c'est un travail que j'ai fait pour moi et que moi j'ai fait un effort de venir le Shabbat. C'est fini maintenant, c'est une routine. C'est la machine de mon corps qui vient le Shabbat à la synagogue. Et qui vit l'expérience du Shabbat et la synagogue. C'est pas moi qui ai décidé de venir. Cette décision, je l'ai prise il y a 10 ans. Et depuis que j'ai pris cette décision il y a 10 ans, maintenant je le fais. Donc, on m'appelle plus Oved, on m'appelle Eved. Alors, pour les hébraïsants, d'accord, donc Oved, c'est je suis en train maintenant de servir Dieu, donc de me battre avec mon Yitzhara. Eved, c'est je suis esclave de Dieu. Ça veut dire que j'ai déjà reçu une appellation. C'est-à-dire celui, par exemple, qui faisait pas Shabbat et qui a pris sur la décision, ça fait déjà maintenant 15 ans, il fait son Shabbat. Alors on dira que maintenant, il est Shomer Shabbat. C'est fini, c'est quelque chose, c'est un acquis qu'il a. C'est plus une guerre qu'il a. C'est un acquis. Il est esclave de Dieu sur ça. Mais c'est pas une bataille qu'il a avec son Yitzhara. Quelle va être la bataille? C'est que dans son Shabbat qu'il fait maintenant, il va se poser la question, il va se dire,
il va venir à
qu'est-ce que je peux rajouter maintenant que je ne fais pas avant, que je ne fais pas dans mon Shabbat?
Il n'est pas en cours, maintenant il est en cours.
Est-ce que c'est
le même prix pour tout le monde?
Pas du tout.
Non.
Évidemment, pas
du tout. Celui qui vient de 9h à midi, celui qui vient de 11h à midi.
Celui que pour lui, venir à... il y a des gens que pour eux, venir au Kiddush Shabbat, c'est déjà un effort.
Ouais.
Monsieur,
ouais. Il parle de toi, quoi.
Il y en a un qui va dire, pour venir à midi, c'est un effort.
On finit jamais à midi.
D'accord.
Dans certaines synagogues, il y en a qui viennent
pour l'apéro. Ceux qui partent pas, le Fambringen, ceux qui restent
toujours arriver au même moment.
Mais c'est très clairement, ça dépend de chaque personne. Ça dépend de chaque personne.
Ça dépend à un moment donné.
Mais c'était leur plaisir, c'était ça.
Ça dépend de.
Je dis, à un moment donné, tu sais pas si la personne aura un éveil, même s'il le fait tordu, qui vient plus tard ou n'importe quoi, mais à un moment donné, il aura un éveil, tu sais pas quand.
On le souhaite.
Très bien, il doit venir, il faut continuer à venir. Mais ce que je veux dire ici, c'est que là je m'adresse aux juifs religieux là, aujourd'hui. C'est-à-dire, vous avez remarqué que là maintenant, on s'adresse pas à une personne qui est pas pratiquante. On peut aussi s'adresser à une personne qui est pas pratiquante. Mais je pense qu'on s'adresse surtout à une personne qui est pratiquante. On lui explique comment en vérité, tu peux être pratiquant et ne pas servir Dieu. C'est-à-dire, tu peux faire toutes les mitzvot, mais ne pas servir Dieu dans le genre que tu t'es pas battu contre une Sarah.
Je fais pas le kilomètre supplémentaire.
Voilà. Tout ça. Il faut toujours chercher à rajouter quelque chose. On dit que chez les chassidim, on avait l'habitude que chaque année, dès qu'arrivait Rosh Hashanah, même les tzadikim, ils prenaient sur eux une mitzvah supplémentaire qu'ils faisaient pas jusqu'à maintenant. Ou bien d'embellir une mitzvah d'une manière qu'ils faisaient pas jusqu'à maintenant. Parce qu'il faut toujours rajouter. Si on rajoute pas, c'est fini. Il faut toujours rajouter quelque chose dans les mitzvot. Et ça, ce rajout-là, ça vaut plus que tout. Parce que ça, c'est l'effort que moi j'ai donné à Kadosh Baruch Hu. C'est le cadeau que moi j'ai donné à Kadosh Baruch Hu. Alors, on continue. Il dit maintenant, on passe au chapitre 16. Qui est la suite, hein.
Juste une question qui n'a rien à voir. On ne parle pas sur le fait que chaque matin quand je me réveille, je suis une bria hadasha, j'ai de nouveau un travail.
Mais c'est pas une guerre. Je me bats pas contre ça. C'est pas une guerre.
Là, je suis pas complètement d'accord parce que ça dépend pour qui.
Alors,
il y a des types qui ont une nature. À 5h du matin, ils sont debout.
Très bien.
Sauf que pour eux, aller à la tefila, effectivement, c'est une routine. Mais de toute façon, à 5h, ils sont levés. Et s'ils n'allaient pas à la tefila et s'ils étaient à Tahiti, ils seraient quand même debout à 5h. Par contre, il y en a pour qui, quand le réveil il sonne et qu'ils doivent aller à la tefila, c'est une guerre. Ils se battent dans leur lit
alors,
tous les matins.
Celui-là, c'est un réveil. Oui, pas de problème. Ouais. Mais moi, je dis, imagine des choses dans ta vie sur lesquelles tu as déjà la routine.
Ouais.
D'accord.
Non, l'exemple du Shabbat, effectivement, voilà. on vient le Shabbat.
C'est fini, je le fais le Shabbat. Voilà. C'est même pas l'esprit de pas le faire, et que c'est une routine. Maintenant, quand je me dis, est-ce que je peux dire vraiment que je me bats pour faire mon Shabbat? Non, je me bats plus du tout pour faire mon Shabbat, c'est une routine. Donc, je dois me poser la question, sur quoi je peux me battre pour rajouter quelque chose dans mon Shabbat? Et là, je peux voir, par exemple, je vais faire un effort de répéter un petit Dvar Torah à la table de Shabbat, ou une histoire, ou 30 secondes de répétition de Dvar Torah. Pour une personne, ça peut être un effort énorme. C'est-à-dire, ça ne le dérange pas de venir à 2 heures de cours de Torah, mais tu lui demandes de répéter 30 secondes d'un Torah à la table de Shabbat, c'est impossible. Tu lui dis, bien tu dis, je vais faire un effort de chanter une chanson à la table de Shabbat. Ouvrez le livre, chantez une chanson. Ouais, qu'est-ce que ma femme va dire? Les enfants vont se moquer de moi. Je sais pas comment ça va passer, etc. Déjà, pour qui c'est une guerre? Il n'arrive pas à faire ça. Eh ben, on te dit, cette petite guerre que tu as fait, eh ben, c'est dans là que se trouve ton moi. C'est là que je peux dire, ça, c'est moi qui ai décidé de le faire. Tout le reste, c'est la routine. Bon, tu seras récompensé, mais c'est la routine. Alors, on va continuer dans le chapitre 16. On va faire le début du chapitre 16. Il dit, Vézé, c'est vraiment la suite. Hein. C'est pour ça que je les ai groupés, parce que vraiment, c'est deux chapitres qui sont l'un à la suite de l'autre. Vézé, Klal Gadol. Ce qu'on vient de dire, c'est un grand principe. Bavodat Hashem la Benonim. Dans la manière comme un Benonim sert Dieu. Aïkar, quel est l'essentiel? C'est pas combien de mitzvot il a fait, combien de chiffres il a fait. C'est quoi le Icar, l'essentiel? Veya Icar, c'est quoi le Icar, d'accord? Ulim Shol, Velishlot, Alateva Shibichal Asmani. L'essentiel, c'est de gouverner, dominer, maîtriser la nature qui est du côté gauche. Rappelez-vous, chacun de nous, on a le côté droit, le côté gauche. Le côté gauche, c'est le Yitzhara, c'est l'âme animale, c'est la pesanteur, c'est le fait que j'ai pas envie d'avancer. La clé numéro 1, c'est-à-dire la question numéro 1 que se pose le Benoni, il se dit, est-ce que je sens que je me bats contre mon Yitzhara? Et si tu as répondu à cette question, automatiquement tu pourras répondre à la question, est-ce que je sers Dieu ou pas? C'est pas directement qu'il se pose la question, est-ce que je sers Dieu? Évidemment, tu prends quelqu'un qui fait Shabbat, tu lui dis, est-ce que tu sers Dieu? Qu'est-ce qu'il va répondre? Prenez quelqu'un qui vient à la synagogue le Shabbat, et il est là de bonne heure depuis 9h du matin. Tu lui dis, monsieur, est-ce que vous servez Dieu?
Il sert.
Il va te répondre, bien sûr, je sers Dieu. Tu dis, mais est-ce que tu sens que tu te bats contre toi? Ah, il dit, ah non, je me bats pas contre moi-même. Mais Admorazaka, il dit que le Benoni, il se pose pas la question, est-ce que je sers Dieu? La question numéro un, Vehaïkar, la question numéro un qui se pose, il dit, est-ce que je sens que je me bats contre quelque chose? Si tu as répondu positivement, automatiquement tu peux répondre aussi à la deuxième question positivement, que ça veut dire que tu sers Dieu. Il n'a pas besoin de se poser la deuxième question. Si tu as répondu positive à la première question, ça veut dire que tu as répondu positive à la deuxième question. Tu as répondu négative à la première question, tu te bats pas contre toi-même, et ben ça veut dire aussi que tu as répondu aussi négative à la deuxième question. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Ça, c'est le Icar chez le Benoni. Aliédé, Or Hachem, Ameir et Nefesh et le Kitchen Mémoire, comment le Benoni va se battre contre son Yitzhara? C'est grâce à la lumière de Dieu qui est claire dans son âme divine, parce que rappelez-vous, alors là c'est vrai que c'est des termes un peu techniques qu'on est en train de dire ici, la lumière de Dieu dans l'âme divine, d'accord? Mais c'est la réalité, c'est ce qui se passe. Chaque fois que je me bats avec mon âme animale, chaque fois que je me bats avec moi-même, eh ben il y a une énergie positive qui vient de l'âme divine qui essaye de se battre contre la pesanteur et qui essaye de faire bouger l'âme animale. Et dès que j'ai réussi à le faire bouger, ça veut dire que c'est les forces du bien qui ont gagné sur les forces du mal. Alors bon, c'est vrai, après quand on parle de moi, je me dis bon, ça va. Excite pas, d'accord. Mon ami s'est levé le matin et il a dit, oh, pff, allez, mettez-moi le tapis rouge, je me suis levé le matin. On a voulu dire, ça va, comme toi. Il dit, non, c'est la vérité. T'as vu, je me suis levé. Hey, alors, applaudissez. Donc, Velishlot à la lèvre, c'est ce qui va aider le Benoni à dominer sur son cœur. Kshemit Bonen, Bemoro, Bigdolet, and Savoro. Là, maintenant, en vérité, le but de ce chapitre. Là, ce qu'on va expliquer maintenant. C'est, on l'a dit très rapidement dans le chapitre 15, on a dit que le Benoni va penser à la grandeur de Dieu et que ça même, ça va lui permettre de se battre contre son Yitzhara. Là, on est en train de toucher à un point très très important dans la Chassidut Chabad. Pourquoi? Chassidut Chabad, d'accord, dans le mot Chabad, il y a Chochma Binadat. Ça veut dire que dans la Chassidut Chabad, la méditation est un facteur clé et c'est peut-être même le facteur le plus important de la Torah. Alors, c'est quoi la méditation? D'accord. La méditation, ça veut dire réfléchir à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Alors, évidemment, on parle de personne ici qui fait déjà les mitzvot, mais qui se pose la question, comment je vais me dépasser? Donc, il va devoir faire Itbonenut. C'est quoi Itbonenut? Itbonenut, c'est réfléchir à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Réfléchir comment Dieu est tellement grand, comment je suis tellement petit. Et essayer de me situer par rapport à Akadosh Baruch Hu. Et que ça va m'aider à dominer, à maîtriser ma nature. Alors, il va donner un exemple concret. Regarde. Kshemit Bonen Bemoro. Lorsqu'il va réfléchir, vous avez dans les mots, on va suivre dans les mots. Allez, j'ai accéléré un peu, hein, parce qu'il y a beaucoup d'idées que j'avais expliquées déjà à l'oral. Oulala, attends, on a des pages. Hein. Alors. Vous savez, c'est important de le suivre dans les mots, même si on ne comprend pas les mots. Parce qu'on dit que les mots véhiculent une énergie. Le fait de regarder des mots, ça aide à comprendre. Là, Kshemit Bonen. Je suis à la page 212,
page 42.
Au milieu de la page. Keshemit Bonen. C'est bon, Michael? Alors. Keshemit Bonen, Bemoro, Bigdoulat, and Savanrou. Lorsqu'une personne va réfléchir dans son esprit à la grandeur de Dieu. C'est quoi la grandeur de Dieu pour vous? Je vais faire un tour de table parce que c'est une question importante, ça. C'est quoi la grandeur de Dieu pour vous? Quand vous imaginez la grandeur de Dieu, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit?
Vas-y. Déjà, toute la création.
L'infini.
L'infini. Abraham.
C'est marqué infini.
Attendez, non, mais ne donne pas la réponse du livre, donne-moi ta réponse.
Mais c'est marqué Ensof.
J'ai pas besoin de la réponse du livre. Parce que le livre, c'est une routine. Je veux ta réponse.
La création.
Vas-y, c'est quoi ta réponse?
La création est permanente.
La grandeur de Dieu.
C'est quoi la grandeur de Dieu?
Bah, tout ce qu'on voit.
Je sais pas, d'accord. C'est une bonne réponse aussi, ouais.
Tout ce qu'il a créé.
J'ai pas regardé le livre, hein. Je dirais,
tous les miracles qu'on voit en permanence de la naissance.
Il faut regarder la suite, il n'y a pas de réponse.
Moi, je suis là-dedans.
J'écoute.
Comment il arrive à maintenir le monde tel qu'il est?
D'accord.
Il renouvelle chaque fois.
D'accord. Jour. Donc ça m'impressionne. Ok. Bah, ok.
Yves. La nature, la variété. Moi,
attends, on va faire le tour.
Simplement dire qu'on n'existe quasiment pas, quoi. C'est ça. C'est dire que.
Donc la grandeur, c'est le fait de réaliser qu'on est petit.
Qu'on, plus que petit, qu'on est. Qu'on est rien de rien.
Qu'on est infiniment petit. Ouais. D'accord. Ok, Avner.
Je sais pas, j'ai pas d'idée. Enfin, je pourrais le dire de mille manières. Enfin,
dis ce qui te passe par la tête.
Simplement.
Bah, dit,
quand tu dis dans la Amida, Akel, Agadol, Dieu il est grand, ça veut dire quoi il est grand? Ça veut dire qu'il est grand comme toi, qui fait 1m90? C'est quoi grand? C'est quoi la grandeur?
Tous les jours, la création en soi elle est parfaite, enfin, quand on regarde que ce soit la chaîne alimentaire, le renouvellement des eaux, des nuages.
Donc pour toi, quand tu dis quelque chose qui est grand, ça veut dire qu'il est impressionnant?
Non, pas seulement. Enfin, le, non, qui est équilibré, ordonné.
D'accord, ok, j'entends. Ben.
Moi, j'ai un mot qui me vient. L'omniprésence.
Omniprésence, très bien, Razak. Ok, David.
Je sais pas, je l'ai pas encore médité. Je voudrais méditer la grandeur de Dieu.
Non, dis-moi, quand t'as pas entendu ma question. J'ai dit, quand je te dis le mot la grandeur de Dieu, c'est quoi pour qu'est-ce qui te passe à l'esprit? C'est quoi la grandeur de Dieu? Dis ce qui te passe par la tête. Tu peux dire, tu sais pas aussi.
Joker.
Joker, d'accord.
Enfin, pour moi, en tout cas, c'est tout ce qui a été réalisé jusqu'ici par Dieu, la création du monde, les miracles et tout ça, c'est la grandeur.
Et en quoi c'est grand?
Ben par le travail qui a été réalisé.
Mais en quoi ça exprime la grandeur?
La grandeur, il a pu réaliser des choses que l'homme ne peut pas réaliser.
Ah, d'accord. Donc le fait qu'il ait fait des choses que l'homme ne peut pas réaliser, d'accord. Ok.
Moi, je dirais que c'est par tout ce qui existe autour de nous.
Oui, donc, mais
la grandeur, c'est par tout ce qui
existe. Parce qu'il nous dépasse.
La planète, on les cieux, tout.
La grandeur, on la maîtrise.
Pas que l'homme.
Très bien, c'est un très bon point aussi, ouais. La grandeur.
L'infini aussi, le premier mot qui me vient, c'est l'infini.
C'est l'infini.
C'est bien, puis...
Le premier, c'est le bon, en général.
Après, c'est le point. Puis après, il y a aussi... La de se dire, tiens, moi je fais le fait d'être ultra tolérant avec nous parce qu'on fait des tas d'Averroth et que malgré ça, il nous donne quand même des bras froids, des choses comme ça. Donc le fait de retenir ça.
La patience, la tolérance. D'accord. Vous avez déjà dit
Moi je dirais que c'est le fait de.
Il est parti.
On est face au monde, mais en fin de compte, on émet des hypothèses et tout ça. À la finalité, c'est la compréhension totale.
Donc la grandeur, c'est l'infini.
C'est le fait de ne pas, comme dirait Salomon, ta sagesse n'est pas ma sagesse. Et ton, voilà.
D'accord, ok. Dan.
C'est fini sur un autre niveau. Ouais.
J'ai compris. Dan.
Ouais, ça vous dépasse.
Ça vous dépasse, d'accord, ouais. D'accord. C'est bon, ouais. Mmh. David. C'est quoi la grandeur de Dieu? Quand on te dit le mot grandeur de Dieu, pour toi ça exprime quoi? Ça veut dire quoi?
La
création, d'accord. Monsieur. L'infini.
Et au-delà.
Au-delà. Votre prénom. Franck, d'accord. Oh, Rabat. D'accord, l'infini au-delà.
Le renouvellement.
Le renouvellement.
L'infini au-delà.
D'accord, le renouvellement. Donc... D'accord. Michael.
Mais là, il c'est autre chose. Il c'est que ces choses mauvaises, finalement, elles ont une bonne fin. Une bonne fin dans le sens où c'est une bonne finalité.
D'accord, ok. Et vous?
Perfection.
Perfection. Bon, alors, si on fait un petit topo de tout ce qu'on a entendu, d'accord, enfin, un petit topo rapide, j'espère que je n'ai rien oublié. Donc ça veut dire que pour vous, quand on dit la grandeur de Dieu, ça exprime l'infini, d'accord, la perfection.
Et l'au-delà.
L'au-delà. Je sais pas. Non, mais je sais pas, c'est une bonne réponse aussi. Je veux dire, le fait d'accepter les choses qu'on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on a eu encore comme réponse? D'accord. La patience, comme plusieurs ont dit. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, si on peut résumer en un mot tout ce qu'on a expliqué ici, c'est quoi? C'est écrit dans Ashrei, on dit Velikdulato en Cheker, que la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas la sonder. Bon, attendez, c'est trop facile de dire ça. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire, je ne sais pas. Non.
C'est tout en même temps.
La Gemara a dit comme ça. Il y a plusieurs Gemara qui s'arrêtent sur ça. Une Gemara qui dit que Bimakom Gdulato shel Akadosh Baruch Hu Shamatamotze Anvatnuto. Comment on trouve la grandeur d'Akadosh Baruch Hu? On trouve la grandeur d'une personne dans son humilité. Et dans l'humilité d'une personne, c'est là qu'on trouve sa grandeur. Comment on trouve la grandeur d'Akadosh Baruch Hu? Dans le fait qu'il a eu l'humilité. Donc vous voyez, ça correspond aussi à ce que plusieurs ont dit, le fait que Dieu a l'humilité de descendre vers nous. Mais évidemment, tel que le roi David l'a exprimé, Velikdulato en Cheker. C'est quoi la grandeur d'Akadosh Baruch Hu numéro 1 pour nous? C'est le fait que en Cheker, on ne peut pas la sonder et que ça nous dépasse. Alors maintenant, en quoi ça me fait avancer tout ça? C'est que, qu'est-ce qui fait que j'ai pas envie de me dépasser? Qu'est-ce qui fait que je suis dans une routine et que finalement je fais un peu ce que je veux? C'est parce que je me sens tout puissant. Je sens que j'ai des comptes à rendre à personne et que j'en ai rien à faire de personne et que moi je vis comme je veux et je vis ma vie et c'est tout.
Exactement.
D'accord? Et c'est comme ça qu'une personne vit. Même s'il dit pas comme ça, mais c'est ce qu'il pense. Il pense que je fais ma vie et bon, tant pis. Et de temps en temps, il pense à Dieu et c'est comme ça. Quand une personne, il pense à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il pense à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Il pense comment Dieu est tellement infini.
Il reste au
et comment moi je suis tellement tout petit. Et plus je pense à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, je pense à la grandeur de la nature et comment le monde y tourne et comment le fait que moi-même je tourne et comment des fois Dieu nous montre dans la vie, des fois Ashgara Pratit. Il nous montre la providence divine, comment des fois il y a des choses qui nous arrivent alors qu'en vérité pour une fraction de seconde ça aurait pu se passer comme ça. Et Dieu il te montre dans la vie des fois des choses que finalement c'est les paramètres nous dépassent très clairement. Quand tu vois tout ça, tu sens comment Dieu est tellement grand, tu sens comment toi t'es tellement petit. Progressivement, tu te dis mais attends, Dieu est tellement grand, moi je suis tellement petit, alors qui je suis moi? Dieu me demande d'avancer et moi j'avance pas. Quand tu entends tout ça, alors tu, automatiquement, tu as une envie. Tu dis, mais Dieu il est tellement grand, j'aimerais faire quelque chose pour lui. J'aimerais lui faire un cadeau. J'aimerais lui donner quelque chose. Seulement tu dis, qu'est-ce que je peux donner comme cadeau à Kadosh Baruch Hu? Tout lui appartient à Kadosh Baruch Hu. La Gemara pose la question. Elle dit, c'est quoi la définition d'un cadeau? Un cadeau, c'est quelque chose qu'il faut quelque chose qui coûte cher? C'est quoi la définition d'un cadeau? La Gemara donne une définition. Elle dit un cadeau, c'est des avid naichal et nafshe. En araméen, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quoi la définition d'un cadeau? C'est que j'ai fait plaisir à quelqu'un. J'ai fait plaisir à la personne. Pour faire plaisir, ça peut être par de l'argent, ça peut être par beaucoup d'argent, ça peut être par un geste, ça peut être... Il n'y a pas de définition. Il n'y a pas de la définition d'un cadeau. Qu'est-ce qui fait la définition d'un cadeau? C'est ce qui fait plaisir à Kadosh Baruch Hu. Alors moi... Quand je réfléchis que Kadosh Baruch Hu est tellement grand, et que c'est un procédé qui prend des années, ça prend longtemps que je pense à la grandeur de Kadosh Baruch Hu, et que je me situe par rapport à Kadosh Baruch Hu, et que je me dis qu'est-ce que je suis par rapport à Kadosh Baruch Hu, automatiquement, d'abord, j'ai, numéro un sentiment de crainte. Je me sens tout petit par rapport à Kadosh Baruch Hu. Je commence à flipper. Quand tu réalises qu'il est tellement grand et que t'es tout petit, tu dis, mais attends, je me rends pour qui finalement? Là, tu te dis, avec la vérote que j'ai fait, je suis un microbe, je vois rien. Mais après que t'as ce sentiment de crainte d'Akadosh Baruch Hu, t'as un deuxième sentiment d'amour qui te dit, mais ce Dieu est tellement grand, j'ai envie de lui faire un cadeau. C'est quoi le cadeau que je vais lui donner? Que moi je vais lui donner, pas ma nature, que moi je vais lui donner. C'est justement quand je me dis, eh ben écoute, c'est vrai que je fais plein de mitzvot, mais celle-là j'arrive pas à la faire. Alors le cadeau que je vais donner à Dieu, c'est que je vais faire un effort, je vais casser ma nature, et je vais lui donner ce cadeau-là. Eh ben, ce cadeau que tu lui as donné, ça, c'est un plaisir extraordinaire à Kadosh Baruch Hu. Là, tu peux dire que j'ai donné un cadeau à Dieu. Puisque je lui ai donné quelque chose qui lui a fait plaisir. Pourquoi ça lui a fait plaisir? Ça lui a fait plaisir parce que c'est quelque chose qui sort du commun. C'est quelque chose qui sort du commun. Ça veut dire que qu'est-ce qui fait plaisir à Kadosh Baruch Hu? Ce qui fait plaisir à Kadosh Baruch Hu, parce que Dieu, c'est notre père. Donc, pour comprendre ce qui fait plaisir à un père, il faut comprendre, moi, en tant que père, qu'est-ce qui me fait plaisir chez mes enfants? C'est pas par hasard. Si Dieu nous a comparés comme nos enfants et il s'est comparé à notre père, ça veut dire qu'il est en train de te faire passer un message. Si tu veux me faire plaisir, regarde comment ton enfant te fait plaisir. C'est très simple. C'est pas par hasard que Dieu nous a comparés à ses enfants et qu'il est notre père. Ça veut dire que si je veux voir comment je fais plaisir à Kadosh Baruch Hu, je vois comment mon enfant me fait plaisir. Comment mon enfant me fait plaisir? Quand il a innové. Quand il a fait quelque chose que je sais que ça lui a donné des efforts, et ben ça me procure le plus grand plaisir. C'est pas les notes. Quand t'as un enfant, tu sais qu'il y a toujours des 10, il y a toujours des 20, des 100 ou des 100 partout. Il va te ramener un 100. Bon, bien sûr, t'es content. Mais ça n'a rien à voir avec le plaisir d'un enfant qui t'a ramené d'habitude pas des bonnes notes et une semaine, il t'a ramené une bonne note. Le plaisir que lui va te faire, l'autre en 100 semaines, il te l'a pas ramené. Pourquoi? Parce que lui, il a cassé sa nature. Et ça, c'est ce qui t'a procuré un plaisir. Ça veut dire que c'est pas la performance. C'est le fait qu'il a cassé sa nature qui s'est dépassé. Ça, pour arriver à ça, il faut passer obligatoirement par la Hitbonenout. Hitbonenout, c'est la réflexion, se remettre en question. Parce que tant que tu réfléchis petit, et tant que tu réfléchis à moi, t'en as rien à faire de Dieu. Et même si tu vas faire des mitzvot parce que bon, tu veux être bien jugé, etc. Mais tu peux pas dire que tu as réfléchi qu'est-ce que je suis par rapport à Kadosh Baruch Hu. Vous voyez que quand on a posé la question, quand on a fait un tour de table, c'est une question qui est très difficile quand on demande juste la question, aux gens la question, on dit mais c'est quoi pour toi la grandeur de Dieu? Pourtant, on le dit tous les jours dans la Mida. Baruch ata Hashem, Elokeinu v'Elokei Avotenu. Elokei Avraham, Elokei Yitzhak v'Elokei Yaakov. Donc, béni sois-tu l'éternel, donc, le Dieu d'Avraham, le Dieu de Isaac, le Dieu de Jacob. Akel, Agadol. C'est le premier mot de la Mida. On commence avec ça, le Dieu qui est grand. Maintenant, tout à l'heure, quand on va faire la Mida, quand on va imaginer Agadol, on aura une Kavana. On va dire, c'est quoi le Dieu qui est Gadol? C'est quoi le Dieu qui est grand? Ça veut dire que je me sens petit par rapport à lui. Et que je dois faire un effort de réflexion pour réfléchir qui je suis par rapport à Kadosh Baruch Hu. Comment je suis petit par rapport à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce qui est expliqué dans le chapitre 16. Ça veut dire, en fait, on fait que commencer, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que bon, il fait encore beaucoup de temps pour ça. Il va expliquer comment réfléchir à Kadosh Baruch Hu, comment générer la crainte de Dieu dans son cœur, et comment générer l'amour de Dieu dans son cœur. Ça veut dire, ça c'est un chapitre aussi très important dans le Tanya, et on peut dire même c'est un chapitre très important dans la Chassidut Rabat en général. Il va t'expliquer comment en vérité, rien ne vient tout seul. Et rien ne peut être simulé. Ce qui est simulé, c'est zéro. C'est pas zéro, mais bon, ça s'en va. Si tu veux que ce soit quelque chose de sérieux, il faut obligatoirement que ce soit quelque chose qui vienne de toi. Or, pour que ça vienne de moi, on doit passer obligatoirement par la tête. Un sentiment qui vient directement par le cœur ne tient pas la route. Je terminerai juste avec cet exemple-là, mais si vous voulez la suite, il faudra se venir vraiment la semaine prochaine. Je vous donne un exemple. Quelqu'un va se marier. Tu dis pourquoi tu t'es marié. D'accord, c'est un petit preview en vérité. Quelqu'un va se marier. Tu dis pourquoi tu t'es marié. Il a eu un coup de foudre. Très bien. Donc ça veut dire qu'il a eu de l'amour. D'accord. Cet amour-là va partir avec le temps. C'est éphémère. Ce qui est venu vite partira vite. Quel va être le travail de cette personne-là pendant toute sa vie? C'est qu'il va essayer de réfléchir avec sa tête. Qu'est-ce que ma femme représente réellement pour moi? Pas qu'est-ce qu'elle représente par sa beauté. Qu'est-ce qu'elle représente réellement pour moi? Et ça, c'est un travail d'une vie. C'est un travail d'une vie parce qu'il y a des hauts, des bas. Tu découvres des choses, tu découvres d'autres choses, tu découvres des qualités, tu découvres des défauts. Et c'est constamment un travail. Mais c'est une fois que tu as découvert réellement qui tu es en face de toi, c'est là que tu peux commencer à réellement aimer et apprécier la personne. Je ne peux pas aimer et apprécier quelqu'un ou même craindre quelqu'un si je ne sais pas réellement qui il est. Plus je découvre qui il est, et plus j'apprends à craindre de lui, parce que sinon tout est éphémère. Parce que même la crainte, j'ai peur de quelqu'un parce qu'il m'a fait peur, mais après je m'habitue à ça, donc j'ai plus peur. On me dit même plus peur, comme disent les enfants. Alors comment je peux continuer constamment à avoir peur d'Akadosh Baruch Hu? Comment je peux continuer maintenant jusqu'à 120 ans à avoir peur d'Akadosh Baruch Hu? Je suis constamment obligé d'innover. Comment je vais innover? Ben constamment, je dois réfléchir à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Je dois me dire, à l'âge de 20 ans, je me dis, qu'est-ce que Dieu représente pour moi maintenant à 20 ans? Quand j'arrive à 30 ans, qu'est-ce que Dieu représente pour moi à 30 ans? 40 ans, qu'est-ce que Dieu représente pour moi à 40 ans? Chaque moment de la vie, je me pose la question. Et donc, c'est réévaluer constamment. C'est-à-dire que l'amour de Dieu que j'avais à 20 ans n'est pas le même que j'ai à 30 ans. Ça n'a rien à voir. Parce que l'amour de Dieu que j'ai à 20 ans correspond à la manière que j'ai d'analyser Akadosh Baruch Hu. Celui que j'ai à 30 ans correspond à la manière que j'ai d'analyser Akadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi dans la Chassidut Chabad, on te dit que tout est dans la tête. Tout est dans la réflexion. Et que de la réflexion que tu auras, dépendront les sentiments que tu auras. Donc, conclusion du cours d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a expliqué? On a expliqué d'abord on a conclu le chapitre 15, dans lequel on a expliqué la notion de Oved Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu? La notion de l'effort, du kilomètre supplémentaire, d'accord? Et là, on a commencé dans le chapitre 16 à expliquer que finalement, c'est quoi le but d'un Benoni? C'est de casser sa nature. Comment il casse sa nature, le Benoni? Il a besoin obligatoirement de passer par la réflexion. Réflexion de quoi? Réflexion de la grandeur de Dieu. Donc là, on va expliquer Bézrat Hachem dans la suite comment réfléchir à la grandeur de Dieu et surtout comment on ne peut pas arriver à un vrai amour, à une vraie crainte d'Akadosh Baruch Hu si on n'est pas passé par la réflexion. C'est impossible. Je ne peux pas avoir peur de quelqu'un si je n'ai pas réfléchi à lui. C'est comme par exemple, les gens ils vont te dire par exemple, ils vont dire on a peur de l'Avdil, on a peur de l'Ahmadinejad, de la bombe atomique. Pourquoi on a peur de la bombe atomique? Parce qu'on a réfléchi à ça. Parce qu'on a réfléchi ce que ça peut représenter, les répercussions. Et plus tu réfléchis, et plus tu peux comprendre, quand tu t'imagines qu'il y a un fou dans le monde, qu'en appuyant sur un bouton, il peut détruire le monde entier, ça fait peur. D'accord? Maintenant, t'as des gens qui ça leur fait pas peur, parce qu'ils n'y ont pas pensé. Bon, aux informations, on en parle, donc non, ils en parlent, mais ça les travaille pas. Mais plus tu réfléchis, et plus ça génère un sentiment. Parce que un vrai sentiment est un sentiment qui est généré par la réflexion. Je vais réellement aimer quelqu'un, quand j'ai réfléchi à ce que cette personne, représente pour moi. Et donc de là, je terminerai avec un dicton juif, mais qui est très juste, qui dit que dans le monde goy, les gens se marient parce qu'ils s'aiment. Dans le monde juif, on se marie pour s'aimer. On apprend à s'aimer. Ça veut dire qu'en vérité, l'amour qu'on croit avoir avant le mariage, c'est du zéro, c'est du bluff, ça c'est rien du tout, ça s'en va, ça. C'est éphémère. Par contre, ce que tu vas travailler, que tu vas construire avec le temps, donc avec ta réflexion constante, ça va être quelque chose de solide. Et donc c'est pour ça que dans Tania, on travaille principalement sur des choses solides. Donc c'est pour ça qu'on va expliquer la semaine prochaine comment générer un amour de Dieu, comment générer la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Et surtout, il va expliquer, ça va être aussi un thème très important, il dit, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'imagination. Il y a des gens qui ont de l'imagination. Pour eux, dès qu'ils ferment les yeux, ça y est, c'est fini, il est parti. Pour eux, c'est facile. C'est fini, il a fermé les yeux, il s'imaginait. Il est juste dans le holamot, le bonhomme. Donc c'est facile pour lui de s'imaginer, de sentir un Kadosh Baruch Hu, de sentir ce que Dieu représente. Mais il y a des gens, ils n'ont pas d'imagination. Ils ferment les yeux, mais il y a... Qu'est-ce qu'on mange? Il ne sait pas ce qu'il va penser. Donc on va parler de ça aussi. On va parler de ça aussi la semaine prochaine. D'expliquer comment il y a une réflexion qui correspond à chaque personne. Mais que la clé du Benoni, pour que le Benoni réussisse, il dit, ma clé de réussite, c'est je dois innover. Pour innover, il faut réfléchir. D'accord ? Donc, comment réfléchir ? Une réflexion pour chaque niveau. Ça, on va expliquer la semaine prochaine. Voilà, ça va. Oui.
Dans la Torah, d'ailleurs, quand elle dit le rapport entre l'homme et la femme,
oui.
Il dit toujours, il se connu.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Ça veut dire qu'il faut se connaître et au fur et à mesure du travail.
C'est pas quelque chose de tic-tac, ça n'existe pas.
On découvre. Et c'est ce mot-là qui est dans la Bible. Il y a pas
d'autre parce que sinon, on est toujours dans la surenchère. Et ça s'arrête. Après un moment, c'est fini. C'est fini. Ça veut dire que, et surtout au moment où on arrive en haut, et après ça peut que descendre. C'est obligé. On est obligé de trouver quelque chose qui vient par la réflexion, que je peux régénérer constamment et surtout adapter à chaque moment de la vie. C'est le da'at. Et ça, c'est encore un autre. Bon, c'est une autre partie de ça. C'est une autre partie.